Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme, un Roten sans flamme dédié à monsieur Roland Courbis. Encore aujourd'hui, je vous le dis, on est sorti, on était aux hommages, il y avait beaucoup, beaucoup de monde et une grande, grande pensée encore pour mon ami Roland, voilà, qui nous a quittés en début de semaine, mais on a passé un moment fantastique. Bravo pour les hommages à la hauteur de l'homme qu'il était. On est dans Roten sans flamme pendant 2 heures. Il y a la Coupe d'Afrique qui va, la première demi-finale qui va commencer. Il y a beaucoup d'actu. On va retourner le football aujourd'hui avec Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ça va?
Incroyable. On aurait pu faire un sacré Roten sans flamme à l'église de la Madeleine. Entre Pablo Longoria, Zinedine Zidane, Olivier Létang.
Il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde. Et ça tombe bien, on va parler de certains.
Ouais,
on va parler de certains aujourd'hui. On a une belle équipe. On est avec Christophe Dugarry. Salut Christophe.
Salut Jérôme, salut Benoît, bonsoir à tous.
Salut,
salut Benoît.
Salut.
Benoît, parce que je raconte.
C'est pas grave.
Salut Duga, pardon.
Ça va Dug?
Et on ça est va avec... très bien les garçons.
Bon, on est pas tout seul hein, Duga, on est avec notre Corse national. Il est là, Pascal Olmeta. Salut Pasquale.
Salut les amis, salut.
Salut Pascal.
Ça va?
Salut. Salut Dug, salut Benoît, salut Jérôme. Tout voilà. Va bien, tout va bien.
Bon, ça va. Bon.
L'événement ce soir. Oui. C'est la Coupe d'Afrique des Nations. Ah oui, là, ça y est, c'est le dernier carré. Les deux demi-finales à suivre sur RMC, la radio officielle de la CAN. La première demi vient de démarrer. Elle oppose le Sénégal à l'Égypte. Salut Antoine Guillet.
Salut, oui, ça vient de partir depuis une minute entre le Sénégal et l'Égypte, toujours 0-0 forcément, vous l'imaginez. Première demi-finale de la CAN entre le Sénégal et l'Égypte. Revanche de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021-2022 qui avait tourné en faveur du Sénégal au tir au but. Et bien évidemment, le Sénégal et l'Égypte, c'est aussi un duel entre Sadio Mané et Mo Salah, les anciens coéquipiers de Liverpool. Toujours 0-0 entre le Sénégal et l'Égypte, 2 minutes de jeu.
La Coupe d'Afrique des Nations, on en parlera à 19h, Roten se chauffe. Le choc Maroc-Nigeria, qui est le grand favori? On sera en direct de Rabat avec Aurélien Tiersin et
ça va trembler Porte-Saint-Cloud. Ah,
du gars, il y a des, ton maillot y a rouge,
des,
du gars.
Il y a des immeubles Porte-Saint-Cloud, on me dit que ça va trembler.
Ah oui, ça va trembler.
Chez les Boutrons, ça va être chaud.
Chez les Dugarry, imagine. C'est encore pire.
Ah, oui.
À 18h45, on vous l'a dit, on va rendre hommage une nouvelle fois à notre ami coach Courbis avec un de ses plus proches, un ami d'enfance avec qui il a tout connu. Albert Raymond sera notre invité dans Roten sans flamme. Ils ont été formés ensemble à l'Olympique de Marseille. Ils se sont croisés souvent en tant que joueurs et ensuite dans leur carrière d'entraîneur. Donc Albert Raymond à 18h45 dans Roten sans flamme. On vous l'a dit, le procès à 18h30 d'une personne qui était présente pour l'hommage à Roland. Olivier Létang sera l'accusé du soir. Olivier Létang et son attitude envers les arbitres. Il devrait être sanctionné lourdement par la commission de discipline ce soir. On fera donc son procès à 18h30. Et puis l'événement sur RMC aujourd'hui, attention Jérôme, on relance la Ligue des Champions dans Roten sans flamme avec vos places à gagner pour le match Marseille-Liverpool, magnifique affiche mercredi 21 janvier 21h au Vélodrome. On vous propose de vivre l'expérience RMC, les deux places pour assister au match, 2 maillots collector de l'OM Marseille monumental. Dès que vous entendrez cette alerte sonore, vous aurez 5 minutes pour envoyer OM au 732-16, OM au 732-16. Et ben d'ailleurs, on en parle tout de suite des Marseillais. Le problème à Marseille, Jérôme, c'est la régularité.
Ça s'en va et ça revient.
Je ne peux pas espérer obtenir de vrais résultats sur le court terme. Tout se joue sur le long terme.
Le but de Fabien Santos.
C'est terminé au Vélodrome qui l'eût cru début 2026, catastrophique.
Si aujourd'hui tu veux vraiment épouser cet état d'esprit de super-humain, une des premières choses que tu as à faire, c'est de devenir régulier.
Premier poteau, pas meilleur, but, 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 c'est fini. L'OM tient sa victoire. L'OM a été renversant.
Ça va faire mal à Jérôme, on va être champion.
En tout cas, n'espère pas obtenir des résultats si tu es désorganisé, si tu es irrégulier.
Ramos, le but.
Prévu de vivre une fin de match tranquille et puis
patatrac.
Je vais mettre toutes les chances de mon côté pour améliorer ma vie et être régulier pour atteindre mes objectifs.
Il y a une marée marseillaise pour aller marquer ce 9e but. C'est Pavard qui arrive dans la surface, le centre de Pavard et le but de Greenwood. C'est fini, 9-0 pour l'OM.
Ce qui s'est passé hier est une... Et quelque chose qui
ça s'en va et ça revient.
Alors Marseille a pris
qu'elle était dure à sortir celle-là. Mon Dieu.
Préféré.
Qu'est-ce qui s'est passé là, Jérôme?
Moi, je sais pas. Écoute,
une erreur 404.
T'avais un Mars dans la bouche ou quoi?
Didier Deschamps.
Non, j'avais parlé juste avant avec Didier, et c'est vrai que ça m'a perturbé un peu.
Eh oui, c'est ça. Ça y est.
Encore la faute à Dédé.
Il est responsable de beaucoup de choses.
Alors, Steve Savidan s'est trompé dans son pronostic hier, parce que Marseille a pris la Coupe de France au sérieux, et donc Marseille a éliminé Bayeux, club de Régional 1.
Mais là, il est sanctionné un mois.
Ah ouais, bah là, j'espère, oui, bien sûr. Victoire 9-0.
D'une 6e division peut battre une équipe de Ligue 1, non, faut pas déconner.
T'as raison. 9-0, triplé de Greenwood, doublé de Guiri. Sachez que d'ailleurs, Eric Foudal, coach de Bayeux, sera avec nous d'ici 5 minutes dans Rotten sans flamme. Il y a eu une petite prise de bec interposée par médias interposés avec Roberto De Zerbi. Les Marseillais donc nourrissent cet espoir de remporter la Coupe de France. Hein, c'est plus arrivé depuis 1989. La clé, ce sera donc cette régularité. Et c'est ce qui préoccupe le coach donc italien de l'OM. Écoutez.
Da squadra provinciale.
Alors je pense que ça c'est un raisonnement d'équipe un peu provinciale, c'est-à-dire que c'est vrai, le PSG a été éliminé, mais il ne faut pas oublier que nous on a perdu contre Nantes, qui est dernier au classement, donc là il faut qu'on se concentre sur les progrès qu'on peut faire demain, pas d'ici un mois. Si on pense juste à affronter le PSG et pas des équipes comme Nantes, Angers ou Toulouse, on risque de faire de mauvaises prestations contre eux. Le foot ce n'est pas que les grosses affiches, donc si on veut uniquement rester une équipe moyenne, il faut continuer comme ça, sinon il faut changer.
Continuons à faire così che lo siamo.
L'OM capable du meilleur face au PSG, on l'a vu au Trophée des Champions, du pire face à Nantes en Ligue 1, c'était le week-end dernier. C'est donc la une de Rotten sans flamme. Est-ce que Roberto De Zerbi subit l'irrégularité de ses joueurs 32-16 pour en débattre avec nous? Jérôme.
Bah, il l'a subi, oui. Il a subi l'irrégularité de ses joueurs, mais je vais l'intégrer aussi. Il n'y a pas que ses joueurs qui sont irréguliers. Même
il
lui,
a une responsabilité là-dedans, alors.
Bah, il a forcément une responsabilité. Quand tu es un entraîneur de Ligue 1 et que ton équipe elle a perdu 8 ou 9 fois depuis le début de saison, toutes compétitions confondues en 23 ou 24 matchs. Les stats sont pas exceptionnelles. L'équipe de Marseille, elle perd trop souvent à mon goût. Je le dis, pour avoir un championnat où tu vises le haut, le très haut du tableau, bah tu perds trop souvent pour te permettre de lutter avec des équipes qui vont jouer le titre, comme Paris et le RC Lens. Ensuite, en Ligue des Champions, bah t'as rectifié le tir et là, ils sont en passe peut-être de se qualifier pour le barrage, donc tant mieux. Mais il y a eu de l'irrégularité aussi. Il y a eu des très bons matchs, il y a eu des moins bons matchs. Mais moi, je vais te dire, l'irrégularité, c'est une chose. Il doit essayer de faire en sorte que ses joueurs, en effet, soient beaucoup plus constants. L'irrégularité, c'est quand même la preuve, et on est passé par là avec Duga et avec Pascal, c'est qu'on ne te juge pas sur un match ou sur deux matchs ou trois matchs. On te juste sur une saison complète. Donc pour être un joueur, un très bon joueur déjà du championnat de France de Ligue 1, un très bon joueur à l'Olympique de Marseille, il faut enchaîner des semaines et des mois de compète où t'es régulier, où le niveau moyen il est assez élevé quand même pour permettre à ton équipe de gagner et d'avoir une place solide dans cet effectif là et surtout un rôle important dans une équipe comme l'Olympique de Marseille qui vise haut. Et puis à côté de ça, t'as un entraîneur qui pour avoir toutes les cartes sur cette irrégularité des joueurs, il faudrait déjà que lui, et c'est pour ça que je te dis que lui est régulier, il ait un style d'équipe bien approprié à ce qu'il demande, parce que moi, le De Zerbi Ball qu'on nous a vendu il y a un an et demi, bah, je le vois pas tout le temps.
Certains disent que tu le vois dans les grands matchs.
Oui, oui,
tu
d'accord.
Vois ses principes,
oui,
justement, quand ils jouent contre les grands
matchs. Là, je vais revenir à ça juste après, après ce que je vais te dire là. Donc, pour moi, je sais pas d'un match à un autre comment va jouer l'Olympique de Marseille. Donc ça, c'est quand même problématique. Quant à, soi-disant, un profil de jeu bien estampillé de Zerbi Ball. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que on est aussi passé par là. La stabilité d'une équipe est importante pour trouver des repères et pour permettre aux joueurs dans leur zone et dans leur poste d'évoluer à un meilleur niveau. Quand tu changes d'un match à un autre où tu mets pas le même 11 sur le terrain, quand t'as tous les joueurs à dispo, hein, parce que quand t'as des joueurs blessés ou suspendus, on est d'accord, il peut pas les mettre.
Oui, oui.
Mais n'empêche que des fois, il a eu l'occasion de le faire et il l'a pas fait. Il a toujours essayé de jouer un peu à Football Manager. Et moi, je vais te dire, autant l'année dernière, j'allais un peu dans son sens parce que l'objectif, c'était vraiment de se qualifier pour la Ligue des Champions. Autant cette année, quand t'es un entraîneur comme De Zerbi, qui est venu avec une armada d'adjoints, on est en droit d'attendre que le Deserbi Ball, on le voit un peu plus souvent et que ça soit plus régulier et que surtout que l'équipe, elle soit beaucoup plus régulière avec de la stabilité. Mais quand tu acceptes en début de saison, par sa faute ou par la faute de ses dirigeants, je sais pas qui est le plus responsable, mais de changer 15 joueurs, de prendre 13 nouveaux joueurs et de laisser partir 15 joueurs, franchement, pour faire une saison où tu veux mettre tes idées en place, c'est pas la meilleure des choses.
Ouais.
Voilà, donc c'est ce que je pense. Et après, pour revenir, et je finis là-dessus, sur ce que tu disais, sur les grands matchs, on le voit, mais avec Dugas et avec Pascal, on est passé par là. C'est le plus facile pour un joueur de football de jouer des grandes équipes. Dans la préparation mentale, dans l'aspect concentration et dans l'aspect physique. C'est-à-dire que sur les gros matchs, tu sais que tu dois en faire plus que d'habitude. Et tu les fais.
Et t'as envie de le faire.
Naturellement. Et t'as pas besoin d'avoir un entraîneur entraînant ou avec des idées bien précises. T'en fais pas. Le rôle de De Zerbi sur ces matchs-là, il est en effet tactique. Je vais pas lui retirer ce qu'il a fait contre Paris en championnat et sur le trophée des champions.
Ouais.
Parce que je vais pas lui retirer parce qu'il a été bon. Il a trouvé peut-être la parade. Mais dans l'excitation des joueurs, le rôle de l'entraîneur, il sert à rien sur ces matchs-là.
Dugas, est-ce qu'il subit alors l'irrégularité de ses joueurs, Roberto De Zerbi?
Non mais elle est marrante ta question et c'est vrai que tu peux dire que tous les joueurs de l'OM ou pratiquement tous on va dire à 95% sont irréguliers, mais c'est le lot de tous les joueurs de foot ou de bon nombre de joueurs de foot.
Bah oui.
Si ces joueurs là qui composent je reprends les joueurs qui ont joué face au Paris Saint-Germain, quand je vois la compo d'équipe, Paxiao, Guiri, Greenwood, Hoiberg, Kondogbia, Weah, Palmieri, Medina, Balerdi, Pavard, tu crois sincèrement que si ces joueurs étaient réguliers, ils seraient à l'Olympique de Marseille. Ils seraient pas à l'Olympique de Marseille.
Ça, c'est vrai.
Ils seraient dans un grand club par choix, et deux, Marseille ne pourrait pas se les payer.
Ouais, c'est
donc,
vrai.
Bien évidemment.
Bah donc, ça limite sa responsabilité, alors.
Bien évidemment que ces joueurs sont irréguliers, mais une fois que le constat il est fait, c'est quoi le rôle de l'entraîneur? C'est quoi le rôle de l'entraîneur?
Bah, c'est de les
améliorer.
Mais moi, j'ai peut-être tort. J'ai peut-être une mauvaise vision du foot. Je vous l'accorde. Mais moi, je crois que la première responsabilité de l'entraîneur, c'est de faire progresser ses joueurs, individuellement et collectivement. Et de leur amener, justement, cette régularité qui fera d'eux de meilleurs joueurs, donc une meilleure équipe. Pour moi, c'est ça. Et dans tous les domaines, c'est le travail du quotidien, c'est les entraînements, que ce soit physique, que ce soit technique, que ce soit tactique, que ce soit mentalement. Pour moi, c'est son boulot. Et c'est ce pourquoi il est payé. Donc après, si tu veux, après 18 mois passés à la tête de l'OM, cette équipe a toujours les mêmes défauts et affiche toujours la même irrégularité. Pour moi, il est le premier responsable. C'est à lui de trouver les solutions. Il ne faut quand même pas oublier quand même les mots et les déclarations de Benatia. Il est le projet.
Et oui,
il est le projet à 3 ans de l'OM. Ouais. Si l'OM, au bout de 18 mois, est dans cette situation, il est le responsable. Alors après, tu peux toujours aller chercher un peu plus loin et te dire peut-être que les responsables, c'est ceux qui l'ont choisi. Parce que peut-être que ce monsieur n'est pas capable d'amener un projet à 3 ans, n'est pas
ça,
capable
vrai, ouais.
d'amener une régularité à ses joueurs, de faire progresser ses joueurs, et parce qu'il est il est à un plafond de verre, ce monsieur. Mais excuse-moi, mais moi quand je vois, et là je rejoins ce que disait Jérôme, quand on veut que tes joueurs aient de la régularité, il faut que ton entraîneur il en ait aussi. Est-ce que cette équipe de l'OM, elle ressemble pas tout simplement à son entraîneur?
Un peu trop.
Et bien le problème, il est peut-être là. Ouais. Quand t'as un entraîneur où rien n'est clair. Je suis désolé, moi, ce qu'il veut mettre en place au niveau du jeu, laisse-moi finir 2 secondes.
Ouais.
Ce qu'il veut mettre en place au niveau du jeu, pour moi, c'est pas clair. C'est pas clair. Un coup à droite, un coup à gauche, un coup à 5, un coup à 4, jamais deux fois la même commission d'équipe. C'est pas clair. Tu n'arrives pas avec un projet clair et je pense que ça perturbe les joueurs.
Mais même du gars pour aborder les matchs.
Mais là, j'y reviens, j'en rajoute une deuxième chose, sa communication. Sa communication, elle est déplorable. Elle est déplorable. Mais mon poulet, quand il t'explique que Vaz, c'est l'avenir de l'OM et que là, il va partir. Quand on t'explique
je veux que des Mopé dans mon effectif.
Je veux que des Mopé dans mon équipe type. Rabiot, c'est un modèle de professionnalisme. Et après, il t'explique qu'il va falloir partir parce que c'est pas comme il faut. Mais tout est à l'envers. Et là, la cerise sur le gâteau, je l'ai trouvé fantastique, c'est lundi soir, où on lui parle de Mehdi Benatia, où il a lié son
avenir
au départ de Benatia. Mais c'est un génie, ce monsieur. Ah ouais. Une nouvelle fois, on lui pose une question sur Mehdi Benatia, et lui, il parle de lui, et il t'explique que, comme c'est un mec correct, parce que lui, c'est un mec honnête, il n'y a que lui qui est honnête, il n'y a que lui qui est correct. Et bien, tous les autres, on est tous des voleurs, on est tous malhonnêtes. Lui, il est correct, il est honnête. Si Benatia ou Longoria, ils s'en vont, il s'en va aussi. Mais moi, quand je l'entends dire ça, j'ai l'impression que le mec, il cherche toutes les excuses pour se barrer. Mais bien sûr que c'est pas la première fois. Mais quand t'es joueur de foot, quand tu es joueur de foot, et que tu vois ton entraîneur, ton maestro, le mec qui est censé diriger tout ça et être le projet, je le rappelle, il est le projet. Aller en conférence de presse et raconter connerie après connerie. C'est un show, c'est un film qui nous sort à chaque fois. Il s'écoute parler, mais c'est insupportable. Mais quand t'es joueur, tu te dis, mais le mec, mais il est complètement fada. Il te dit que Vaz, c'est un génie, mais il va partir. On te dit que Mobé, il est exceptionnel, mais ça fait un an qu'il est à la cave. Que Rabiot, c'est un professionnel, il faut se faire comme Rabiot, mais tu le fais partir un mois après. Mais les joueurs, ils disent, mais c'est quoi ce fada? Sans parler de la composition d'équipe, un coup ça 5, un coup ça 4, un coup ça 6. Mais voilà pourquoi son équipe pas le manque de régularité, te pose pas de questions. Et ça, les joueurs, ils le voient, même s'ils le disent pas, parce que les joueurs restent égoïstes. Voilà, ils restent égoïstes, ils pensent qu'à eux et tout. Mais ça, ils le voient quand ils voient qu'un mec comme ça, il sait pas où il va, ça part dans tous les sens, c'est du grand n'importe quoi, ils le voient. Donc cette équipe est certes irrégulière, le premier et unique responsable, c'est De Zerbi, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à qu'il nous explique que le projet était peut-être trop gros pour lui. Trop pour lui, qu'il a refusé de prendre tel joueur, tel joueur, tel joueur, et là peut-être que la responsabilité sera sur ses dirigeants qui l'ont choisi.
C'est vrai. Peut-être, et Pascal, toi, c'est ce qui t'énerve le plus, la communication d'ailleurs du coach de l'OM.
Non, mais ce qui m'énerve le plus, c'est que je veux pas dire, attention, ne me faites pas dire le fait que on ait été nous les anciens, pas si anciens que ça. Champion d'Europe, on a amené quelque chose à l'Olympique de Marseille. Mais en football, les choses sont simples. C'est que nous, le matin, on a eu une fois Franz Beckenbauer, on a eu deux ou trois entraîneurs qui se sont succédés. Mais la simplicité, c'est la mentalité des joueurs. Quand on a eu Papy Gothals en tant qu'entraîneur, il arrivait avec Jeannot Fernandez. On avait cette force d'arriver aux entraînements, sachant pas où on allait aller s'entraîner. Mais la force, elle venait de nous, les joueurs, parce que jouer à Marseille, c'est pas facile. Dug, tu connais. C'est pas facile. Le matin, quand tu vas boire le café, tu n'as pas le temps de sucrer que tu as eu 50 000 questions. Non, le football est simple. Quand j'entends le coach d'aujourd'hui parler de certaines choses, de dire que si lui s'en va, je m'en vais. Mais les gars, mais comment depuis des années, après nous, ils ont fait pour construire ce club? Rien. Il y en a qui sont arrivés, ils sont arrivés à 10, ils sont arrivés à 15. Nous, à l'époque, il y avait Papy Gothals et Jeannot Fernandez. On arrivait
après le foot, le foot a évolué, Pascal. Je veux dire, c'est que les joueurs ont besoin.
Mais je le vois avec mon fils. Oui, mais c'est vrai. Si la pelouse, il y a un coin de pelouse, elle est pas assez verte. Eh ben certains vont dire, je m'entraîne pas de ce côté. Mais les gars,
ce que tu veux dire aussi, Pascal, c'est qu'à un moment il faut revenir à des choses simples.
Ben oui.
Non mais les choses simples.
Arrêter de se compliquer la vie.
Si la pelouse elle est pas verte.
Ouais, mais merci les gars pour la traduction.
Non mais les gars, mais si elle est pas verte, putain, mais aidez le jardinier. Nous les jardiniers, on les aidait. La mamie qui nous lavait les slips et les chaussettes, on les posait dans le panier. Aujourd'hui, non, ils rentrent et jettent tout par terre. Non mais les gars, le football, il est très simple.
Non mais là, Pascal,
ça fait 18 mois. ça fait 18 mois qu'il est là, ça fait déjà 2 ou 3 fois qu'il nous parle de son départ.
Et après, ouais, c'est vrai, c'est ça, du gars, là où t'as raison, et pour rebondir sur ce que disait Pascal, c'est ça, sa communication, elle part de là. Bah, l'année dernière, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu, à savoir, c'est un problème de vestiaire, c'est un problème de Greenwood, c'est un problème de l'autre qui est parti à l'Inter, l'arrière-droit, Luis Enrique. Après, c'était un problème des attaquants. Après, en effet, lui, c'est un génie, et puis six mois après, bah, le mec il joue plus, tu te demandes pourquoi.
Il l'a fait avec Balerdi aussi. Hein.
Le voyage aux États-Unis où il a fallu le convaincre de rester alors qu'il était encore sous contrat.
Sur Gomez, t'as vu ce qu'il a dit sur Gomez?
Oui,
chaque fois que Gomez, je le mets pas titulaire, il a dit je souffre ou j'ai mal, je suis triste. Ah oui, chaque fois que je ne fais pas jouer Gomez, je suis triste.
Non, mais c'est dingue, c'est dingue.
Il nous prend vraiment pour
les masques. C'est vrai que
on connaît pas le ballon.
C'est vrai que c'est complètement dingue. Mais
dans un instant, le coach de Bayeux avec nous, un petit point sur la Coupe d'Afrique des Nations, la première demi-finale entre le Sénégal et l'Égypte. Antoine Guillet.
Toujours 0-0 entre les Sénégal et l'Égypte à la 20e minute de jeu. Le ballon est dans les pieds sénégalais. 60% de possession pour les champions d'Afrique 2022 qui se sont créés une occasion là il y a 30 secondes. Une frappe de Nicolas Jackson qui est passée au-dessus des cages égyptiennes. Effet important. Deux joueurs ont pour le moment été avertis. Khalidou Koulibaly qui est en ce moment à terre. Là, je crois que les soigneurs vont entrer sur la pelouse. Khalidou Koulibaly et Ossam Abdelmaghi de côté égyptien qui seront tous les deux suspendus. En cas de finale.
Ça, c'est important. C'est-à-dire que le capitaine sénégalais Koulibaly ne sera pas là si jamais le Sénégal se qualifie pour la finale.
Ah oui, exactement. Et on a 7 joueurs dur, côté Sénégal qui sont sous la menace du
Sénégal. C'est pour ça que tu étais content.
Et 5 côté égyptien.
Faut pas souhaiter du mal aux autres.
Non,
sur soi. Allez, messieurs, on a un invité. On a un invité, Pascal. Éric Fouda, justement, le coach de Bayeux qui est en direct dans Rotten sans flamme.
Salut, Éric.
Salut.
Bienvenue Eric. Tu nous as fait rire. Moi, franchement, tu m'as fait rire hier en conf de presse. C'est pour ça que je suis content de te recevoir dans Rotten sans flamme. Déjà, une chose, de te féliciter de ce parcours, parce qu'on ne parle pas de la défaite d'hier, ce qui est logique de perdre contre une équipe de Ligue 1. Mais d'avoir fait rêver toute une région et comme ça, et d'avoir fait des exploits, moi, je tiens à te féliciter.
Bravo.
Ah, c'est très gentil. Là, on était, moi, c'était un peu du bluff, tout ça. Donc, il y avait pas de. On savait très bien que ce serait compliqué. J'avais vu 6-7 matchs de Marseille. Je savais déjà que ça allait être plus dur contre eux. Mais il fallait. Moi, je me voyais mal en tant que coach dire à mes joueurs et on n'a aucune chance. Donc, il fallait bien que j'anime un peu les choses pour qu'ils aient envie de le gagner.
Non,
je savais qu'au fond de moi, ce serait très, très compliqué.
Éric, je le rappelle, hein, 2-3 petites piques sur le style de Zerbi à l'OM, comme ça, pour lancer l'avant-match. Lui, il l'a mal pris. Il l'a pris au premier degré. Il a tout fait pour motiver ses joueurs et faire en sorte qu'ils jouent à fond. Donc, il y a une espèce d'incompréhension qui s'est mise en place entre De Zerbi et vous, en fait.
Lui, j'ai deux casquettes parce que je suis à la fois un fan de l'OM et puis je suis l'entraîneur de Bayeux, donc c'est pas facile pour moi.
On a tous des problèmes dans la vie, hein, mais bon.
Mais là, si je parle en temps, en tant que.
Si c'est ton seul problème jusqu'à la fin de tes jours, tu t'en sors bien.
Ouais, ça va.
Non, mais en plus, Roten, moi, je le connais bien parce qu'il
arrive à quand moi,
j'occupe de l'équipe réserve.
Bien sûr,
exactement.
Avec Nasser Largué, je l'ai vu grandir là et partir comme une fusée. C'est juste, avec des tailles guillemets au début et monter rapidement.
C'est vrai, c'est vrai. Là,
bon, comme une fusée qui courait pas très vite, mais.
Ouais, il n'allait pas non plus.
Non, mais justement, ce qui est marrant. Ce qui est marrant, c'est que Pascal Théo, un jour, il vient nous voir et nous dit, vous savez, j'ai un gars, il a peut-être pas la vitesse, mais dès qu'il a le ballon, tout change. Alors nous, on comprenait pas.
Il a une coupe de cheveux de merde. À l'époque.
Non, mais c'est réel. Hein, ça, non, c'est non,
laissez
réel,
parler
hein.
Eric, s'il vous plaît.
De l'endroit où il est, il voit plus vite que les autres et il dépose le ballon où il veut. Avec son pied gauche, il n'a pas besoin de vitesse.
Bravo,
et du coup, c'était hallucinant.
Bravo,
non, mais je le dis parce que je l'ai vécu.
Mais non. Magnifique. Non, mais merci Eric, alors, cette Eric, anecdote, c'était fantastique.
Eric, juste bateau.
Bon, il lui avait quand même collé un arrière gauche qui allait vite pour compenser.
Ah bah
c'est
oui,
pas
évidemment,
faux. C'est pas faux.
Eric, parlez-nous en tant que supporter de l'OM. Alors, la réponse à cette question,
supporter
est-ce que
de l'OM,
est-ce que De Zerbi subit l'irrégularité de ses joueurs d'après vous alors?
bon, en tant que supporter de l'OM, De Zerbi, pour moi, c'est pas le vrai coach pour l'OM, déjà. Pour moi, je lâche pas un supporter de l'OM parce que quand je dis ils ont des faiblesses mentales, en fait, c'est le coach qui transmet. Moi, j'étais complètement d'accord avec Dugarry tout à l'heure. Une équipe joue à l'image de son coach. Cette fragilité qu'on ressent là, c'est parce que c'est sa fragilité. Je sais pas comment on peut exprimer ça, mais quand un coach amateur vous dit je préfère mon équipe de Marseille de 93 avec mes Dimeco, avec mes Boli, et que celle-là elle est championne d'Europe, bah, s'il a pas compris que voilà, je suis un fanat de Marseille, que je le dis dans ce sens-là, et qu'il prend ça pour lui, c'est qu'il a pas tout compris.
Bah oui, oui. Puis en plus,
c'est toi qui prend tout pour lui. C'est un faux modeste. Il prend tout pour lui. T'façon, dès que tu lui parles de quelqu'un d'autre, il prend pour lui. T'façon, t'inquiète pas. Hein.
J'aurais pu te forcer de me citer aussi.
Hein. Oh, non, mais oh, c'est 93,
non,
pas 91.
Non, Olmeta, non, je peux pas oublier Olmeta. Non, mais comment je peux oublier Olmeta?
Olmeta,
c'est. Olmeta, non, mais je me rappelle de tout. Moi, quand je dis que je me rappelle de tout, c'est l'étoile rouge de Belgrade avec Olmeta.
Ah, ouais, ça,
c'est la plus belle soirée.
Ah, non.
je sais que c'est Barthez qui a joué après contre Milan, mais moi je connais, c'est Marseille, donc je suis un fou marseillais. Bon. Désolé pour Roten ce soir.
Non, mais après, Eric, la vérité, c'est que déjà, moi j'étais très content pour vous de jouer une grosse équipe comme ça, parce que vous le méritiez, et puis d'autant plus, vu que toi, supporter de l'Olympique de Marseille, c'est sûr que ça fait quelque chose de particulier, mais après, oui, c'est sûr que l'entente avec De Zerbi, écoute, ça aurait pu être un peu mieux, il aurait pu le prendre un peu avec du second degré, mais
bon.
C'est le problème, c'est qu'aujourd'hui les acteurs, le second degré, ils en ont plus beaucoup,
hein. Merci Eric d'être venu dans Rotten sans flamme, en tout cas, et bonne fin de saison avec Bayeux, hein, en Régional 1. Ouais, on espère que tout va bien se passer.
Vous jouez quoi? Vous jouez la montée? Vous jouez le maintien?
Non, là on va déjà essayer d'amortir le choc là, et de redescendre, parce que
c'est sûr,
on redescend maintenant.
Bon, c'est sûr, bon.
Pour amortir les chocs, une bonne soirée entre potes. Ça amortit tout ça.
C'est ça.
Rendez-vous samedi soir en boîte de nuit. Ça marche à tous les coups.
Eric, en tout cas, c'est un plaisir de t'avoir, et à bientôt.
Allez aux chandelles où il allait, Jérôme.
Allez, salut Eric. Arrête-toi. Non, mais ça. Aux chandelles. C'est quoi ça, les chandelles?
Ouais, c'est quoi?
C'est quoi?
Et. On peut juste saluer la classe de l'Olympique de Marseille, puisque Pablo Longoria s'est rendu donc à l'église de la Madeleine cet après-midi pour rendre hommage à Coach Courbis, le président marseillais.
Non, était présent. Franchement, c'est la moindre des choses. Mais c'est bien.
Il y a eu un bel hommage hier avec le brassard noir et une nuit d'applaudissement.
Oui. Ouais.
Mais Jérôme, t'as la pensée quoi qu'il n'y ait pas eu de minutes de silence là entre le match?
Eh bien, écoute, franchement, j'aimerais savoir.
Elle est tombée la justification. Alors, il craignait des sifflets, c'est ce qui a été donné comme raison officielle.
Je vais vous dire, si c'est ça, qui c'est qui a donné ça comme explication?
C'est le club, je crois.
Non, mais c'est scandaleux. Ouais. Alors moi, je vais vous dire, moi, vous connaissez mon appartenance au Paris Saint-Germain et à Paris, mais les dirigeants ont fait une erreur. Parce que j'imagine quand même que les supporters ont assez de mémoire pour se dire que t'as perdu une grande personne du football, qu'il appartienne à l'Olympique de Marseille, à Marseille ou à Paris, peu importe. On était en droit d'attendre une minute de silence. On était au Parc des Princes. Moi, ça m'a choqué qu'il n'y ait pas de minute de silence. Si c'est la seule explication, c'est scandaleux. Voilà.
Et voilà, exactement. Mais c'est l'explication qui a été donnée pour ne pas faire de minute de silence au coach Courbis. La CAN, 18h27 sur RMC. Un gros coup dur donc pour le Sénégal face à l'Égypte, Antoine Guillet.
Oui, coup dur. La sortie de Kalidou Koulibaly. La dernière fois que vous étiez venu me voir, je vous disais que Kalidou Koulibaly était à terre. Le jeu avait repris quelques minutes plus tard. Kalidou Koulibaly touché à l'adducteur gauche et sorti sur blessure, remplacé par le Strasbourgeois Mamadou Sarr dans la charnière centrale sénégalaise. Premier coup dur donc pour le Sénégal, toujours 0-0 entre le Sénégal et l'Égypte à la 28e minute.
Ça y est, c'est le moment, Pascal, le moment de vous inscrire pour aller assister à ce grand match qui vous attend la semaine prochaine. Marseille-Liverpool, mercredi 21 janvier, 21h au Vélodrome. L'expérience RMC, les deux places pour assister au match. Les deux maillots collecteurs de l'OM, Marseille Monumental. N'hésitez pas, vos places OM-Liverpool se gagnent uniquement sur RMC. Vous envoyez donc OM au 732-16, OM au 732-16. Dans un instant, le procès d'Olivier Létang, qui est accusé d'avoir une mauvaise attitude envers les arbitres.
Il est sur la route, il nous écoute.
Ouais.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h33 sur RMC, on est là, on est bien dans Rotten sans flamme. La deuxième demi-heure, c'est maintenant avec Christophe Dugarry, avec Pascal Olmeta et avec Benoît Boutron. On remercie Eric Foudal, entraîneur de Bayeux, d'être venu intervenir sur l'altercation, si on peut appeler ça une altercation par voie de presse avec l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, De Zerbi. Bon. On est à 18h45. Le Allô Jérôme aussi. Qui va être bien aujourd'hui.
Ouais, Albert Raymond sera avec nous, ami d'enfance de coach Courbis. C'était un hommage à Roland aujourd'hui à l'église de la Madeleine. Donc Albert Raymond sera avec nous, on est ravis de l'accueillir.
Ah oui.
Justement, soyons efficaces. Un procès court, mais qui va être excellent sur Olivier Létang. Le temps et le score sur la demi-finale de la CAN, tout de même entre le Sénégal et l'Égypte, Antoine Guillet.
Et 34e minute, c'est toujours 0-0 entre le Sénégal et l'Égypte. Pas de grosses actions pour le moment. Et on rappelle dans ce match, la sortie de Kalidou Koulibaly, le capitaine sénégalais, sur blessure. 34e minute. Toujours 0-0 entre le Sénégal et l'Égypte.
RMC, Rotten sans flamme.
J'ai pas envie de polémiquer. Quand il y a eu la désignation de l'arbitre, pour tout vous dire, quand j'ai vu qu'il était suisse-allemand, j'ai trouvé ça assez particulier. Et à la mi-temps, il parlait avec les joueurs de Dortmund en allemand exclusivement. C'est assez particulier.
Le procès de Rotten sans flamme.
Olivier Létang présent pour coach Courbis à l'église de la Madeleine cet après-midi. Son cas sera étudié donc par la commission de discipline après ses propos tenus il y a 10 jours lors de Lille-Rennes. Je rappelle qu'il avait déjà 2 matchs avec sursis parce qu'il a été suspendu en octobre. Il a eu des soucis également avec l'UEFA, souvenez-vous, cette saison. Il est président du collège de Ligue 1 et c'est ce qui pose problème parce que s'il est suspendu comme prévu pour plusieurs semaines, il ne pourra plus exercer ses fonctions. Dernièrement, lors d'un conseil d'administration, il a dit qu'il y avait de gros problèmes dans l'arbitrage. Il se posait des questions sur le financement des arbitres, ce qui coûte 25 millions d'euros au club de Ligue 1 et à la Ligue. Il envisageait même un recours à l'intelligence artificielle pour aider, voire bousculer un peu les arbitres de Ligue 1. Son procès ce soir, il est accusé d'avoir une mauvaise attitude envers les arbitres. Le procureur, c'est monsieur Dugarry. Bonsoir.
Pardon, j'avais coupé le bouton. Pardon. Bonsoir.
Un avocat pour Olivier Létang, c'est maître Jérôme Rotten. Bonsoir.
Bonsoir.
Pascal Olmeta préfère assister en tant que spectateur à ce procès et c'est David qui va rendre son verdict au 32-16. Salut David.
Bonsoir tout le monde.
Salut David.
Sois le bienvenu et sois objectif pour ce procès. Vas-y Dugas, qu'est-ce que tu reproches alors au président lillois?
Oh ben, ce que je lui reproche, c'est de changer de disque déjà, et je lui propose d'essayer de faire différemment. Ça fait des années et des années et des années, et il y en aura toujours des problèmes d'arbitrage, et de changer de disque, tout simplement. Et pourquoi pas d'essayer de soutenir véritablement les arbitres et d'arrêter avec les oui mais, c'est-à-dire qu'on soutient les arbitres, mais il y a toujours un mais derrière, donc ça c'est tout juste insupportable. Olivier Létang, c'est il est toujours en train de la ramener, toujours haut et fort, pas toujours justifié, mais ça c'est même pas la raison. Et donc je lui propose une nouvelle fois de soutenir, mais pour de bon les arbitres, c'est-à-dire que quand il y a des réunions qui se font entre les dirigeants et les arbitres, d'y aller déjà aux réunions parce que il va jamais aux réunions non plus, donc il se plaint de l'arbitrage, mais il va jamais assister aux réunions.
C'est ce que Michel Landreau avait dit, ouais.
Voilà, exactement. Donc, écoute, j'ai lui proposé de changer de disque, tout simplement, parce que son comportement a montré une seule chose, c'est que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que ça ne change absolument rien à la situation de l'arbitrage, que de leur gueuler dessus, que de les prendre pour cible, que de les prendre pour des imbéciles, que de les prendre pour des incompétents, voire parfois pour des malhonnêtes. Ça ne fonctionne pas. Donc il peut continuer à s'égosiller comme ça pendant des années, voire des mois. Ça ne change rien. Donc essayer de changer la façon de faire et peut-être de manière sincère, de manière honnête, de les encourager, de les soutenir, de croire en eux et qu'il n'y ait pas de mauvaise intention par derrière. Voilà, parce que les arbitres, ils le ressentent que c'est pas honnête. Chaque fois qu'il y a un dirigeant qui essaie de faire un effort et un compliment sur l'arbitrage, ou de pas être trop dur sur l'arbitrage, il y a un oui mais. Il y a pas de mais. Voilà. Et je pense qu'au bout d'un moment, il faut que le corps arbitral, les dirigeants et les joueurs finissent par un moment leur en osmose. On parle souvent et on du rugby. Pourquoi les footballeurs se permettent de faire ce qu'ils font? Parce qu'on leur donne l'autorisation. Si les rugbymen se permettaient le dixième du quart de ce que font les footballeurs, les instances et les arbitres sanctionneraient immédiatement. Ça, à partir du moment où on laisse autant de pouvoir, et c'est là que j'en veux aux instances, et j'espère que qu'Olivier Létang, il va prendre des mois et des mois de suspension. À partir du moment où tu laisses la possibilité à ces gens-là de s'exprimer de comme ils le font, tu laisses une porte ouverte et les choses n'avanceront jamais. Il faut que les sanctions soient exemplaires si on veut changer la façon de faire.
Jérôme, parole à la défense.
Écoute, je suis pas totalement en désaccord avec Dugas sur la façon de faire de Olivier Létang. Vous savez que je l'égratigne très souvent, mais sur cette relation avec les arbitres, je pense très honnêtement qu'il a voulu faire en étant le président du Collège Ligue 1 aujourd'hui par rapport à Jean-Pierre Caillot l'année dernière. Je pense que ceux qui sont à ce poste-là aujourd'hui, là, c'est plus la casquette de président de club. Là, on parle des clubs de Ligue 1 et l'ensemble des clubs de Ligue 1. Je pense qu'il a voulu faire avancer les choses avec le corps arbitral, sauf qu'il se rend compte d'une chose, c'est qu'ils ne veulent rien savoir. Ils sont dans une bulle. Alors, écoute, est-ce que...
Parce qu'ils sentent que c'est pas honnête et que c'est pas sincère, Jérôme.
Peut-être.
Tu peux pas d'un côté. Tu sais, Jérôme, si je fais que te fracasser, que je t'insulte, que je dis que t'es un naze, que t'es ci, que t'as là, et qu'après je vais vouloir parler avec toi, tu vas me regarder, tu vas me dire, écoute,
c'est vrai, c'est vrai.
Tu t'assois dessus, tu me serras pas la main. Pareil.
Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Maintenant, moi, je pense que avant, il s'est passé des choses avec les arbitres qui veulent pas savoir. Ils veulent pas faire évoluer le Schmilblick parce que je sais pas. Ils ont jamais tort. Il y a des décisions, on a du mal, on le dit, on va pas faire le procès de l'arbitrage, c'est pas ça. C'est pour moi, c'est pour juste défendre Olivier Létang là-dessus. Après sa réaction, c'est des réactions à chaud, c'est toujours pareil. Nous, on est mal placés aujourd'hui pour parler de l'adrénaline d'un club. Quand tu diriges un club, quand t'es entraîneur d'un club, quand t'es joueur, on a eu des réactions. Moi, j'ai eu des réactions des fois sur le terrain où je me dis, avec le recul, 15 ans après, je me dis, putain, là, j'ai été dur avec l'arbitre. J'ai été dur parce que tu sens une certaine frustration. Et c'est vrai que lui, on a l'impression que ça s'accumule contre son club, contre Bruno Genesio, contre les joueurs, et que la situation sportive de Lille, elle pourrait être meilleure. Elle est pas catastrophique, mais elle pourrait être meilleure. Que il y a des explications par moment, en effet, où sur une saison, des fois, t'as des séries, malheureusement, contre toi, avec le corps arbitral qui veulent rien savoir et qui reconnaissent pas leurs erreurs. Le comportement des joueurs, des arbitres, je suis désolé, laisse un petit peu à désirer. Et il le dit ouvertement, si tu veux, dans le hall. Là, qu'on entend l'altercation avec Monsieur Vatelier, bien sûr qu'il y va avec des mots forts, mais vous avez vu les attitudes des arbitres. Encore une fois, il y a beaucoup d'arbitres qui n'ont pas la bonne attitude, et donc ça, il le crie haut et fort. Là, il a été maladroit, il va être sanctionné, il le sait.
Et lourdement.
Mais, et est-ce que
mais c'est pas de la maladresse, après, c'est de la préméditation.
Non, mais est-ce que après ça, faire évoluer les choses? Je pense que il y a de la frustration aussi de son côté, en se disant, on essaye par tous les moyens de les faire bouger, mais ça bouge pas.
Le verdict de
David. C'est pour ça que j'ai envie de le défendre quand même, et de dire que, de toute façon, il va être puni, donc on va plus trop l'entendre dans le tunnel, parce qu'il n'aura plus accès au tunnel. Ouais. Et puis on verra la suite.
On connaîtra la sanction dans la soirée. David, est-ce que Olivier Létang est condamné ou acquitté pour toi, alors?
Pour moi, j'espère qu'il va prendre cher, mais très cher. Je suis supporter de Lille depuis que je suis tout petit, hein. Je suis au stade depuis 3 ans, depuis qu'il y a pris le club. C'est une pleureuse, il nous met une cible dans le dos. Je suis d'accord avec Jérôme sur le fait que l'arbitrage, ils sont un peu dans leur tour d'ivoire, ils se prennent pour des demi-dieux, mais alors que pas du tout. Mais par contre, il y a une façon de faire. Quand on critique l'arbitrage et qu'on n'est pas capable d'aller aux réunions, parce que Michael Landreau a dit qu'il a été invité aux réunions, il n'a pas ramené ses fesses là-bas, à un moment donné, stop. Et ça, si monsieur Létang, il supporte pas la pression, il s'en va. Moi, je suis actionnaire du club. Je vais à Action, je lui achète un carton, il prend la photo de madame, il prend son doudou et au revoir et merci. Bon, à un moment donné, il arrête.
Le verdict est sans appel. Merci David d'être venu au 32-16. Bonne fin de saison avec le LOSC.
Merci David, encore une victoire.
Victoire de Christophe Dugarry dans un instant. Albert Raymond.
Il faut raconter un moment.
Eh bien, il faut raconter. On va faire le
t'es presque à l'équilibre.
On va faire le compte, t'as raison. Albert Raymond, grand ami de coach Courbis, avec nous d'ici quelques secondes à la CAN 0-0 entre le Sénégal et l'Égypte. Ça commence à chauffer sur le terrain. On fera le point avec Antoine Guillet.
C'est chaud là.
À tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h47 sur RMC, les 10 dernières minutes de Roten sans flamme. Ça va être le Allô Jérôme. Dans un instant, on va recevoir Albert Raymond, grand ami de Roland Courbis. qui est parti en début de semaine. Donc on continue l'hommage à Roland. Et c'est pas fini, et c'est pas fini, bien entendu. On est avec Christophe Dugarry, avec Pascal Olmeta, avec Benoît Boutron. Et après 19h, Benoît,
on va lancer la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Maroc et le Nigeria. Le choc de ce soir, 21h sur RMC. L'After Live en direct de Rabat avec Nicolas Jamin, Aurélien Tiercin. Qui est le favori de cette demi, 32-16 d'ailleurs, pour participer avec nous. La première demi-finale est très tendue, elle oppose le Sénégal à l'Égypte. Fin de première période, Antoine Guillet.
Oui, 0-0, on est dans le temps additionnel de la première période entre le Sénégal et l'Égypte. Pas vraiment de grosses occasions, le Sénégal a le pied sur le ballon. Et tu disais tout à l'heure, Benoît, que ça chauffait entre les deux bancs. Effectivement, ça a chauffé pour une faute de Mossala sur Sadio Mané. Les esprits qui commencent à s'échauffer. Et Habib Diarra, côté sénégalais, en est reparti avec un carton jaune pour contestation. C'est le deuxième joueur suspendu côté sénégalais en cas d'éventuelle finale. En plus de Kalidou Koulibaly, le capitaine sénégalais, sorti sur blessure à l'adducteur gauche. 0-0 entre le Sénégal et l'Égypte. Il reste environ 30 secondes dans cette première mi-temps.
RMC, Rotel sans flamme.
Quand je dis un truc qui n'est pas obligatoirement une connerie, que tu me répondes, mais coach, on a toujours fait comme ça et tout le monde fait comme ça. Mais je vous emmerde à tous. Voilà, c'est pas parce que je suis tout seul que j'ai obligatoirement.
Allô, Jérôme.
Un magnifique hommage à coach Courbis. On y était, Jérôme, tous les deux à l'église de la Madeleine cet après-midi. Beaucoup de personnalités du monde du foot présentes. Pablo Longoria, toute la famille RMC. Zinedine Zidane a fait le déplacement. Manu Petit, Florian Maurice, de nombreux anciens joueurs et proches du coach Courbis. Roland, qui nous a malheureusement quitté lundi matin à l'âge de 12 ans. On est ravis d'accueillir ce soir sur RMC l'un de ses plus fidèles amis, un joueur avec qui il a été formé à l'Olympique de Marseille. C'est Albert Raymond, Jérôme.
Salut Albert.
Salut.
Bonsoir Albert. Merci beaucoup d'être là, de rendre hommage encore à Roland. Et c'est pas fini, Albert.
J'espère.
Pascal Olmeta qui est là aussi, Albert Raymond.
Comment il va, Albert?
Salut Pascal.
Oh, tu vas bien, Albert?
Oui, comme on est vieux. C'est un plaisir. Oui, mais ça va.
Bon, Albert, racontez-nous cette relation de 60 ans quasiment avec coach Courbis, formé ensemble à l'OM. Vous étiez le talentueux de cette génération, lui un peu le besogneux, même si au début, il jouait numéro 10 derrière vous. C'est ça l'histoire entre Courbis et Aymon, alors?
Alors, cette histoire, elle a commencé à l'âge de 14 ans, quand je me suis retrouvé à l'Olympique de Marseille. Il n'y avait pas de centre de formation, il n'y avait rien. Et par contre, voilà.
Quand je parle d'avant,
on se fréquentait tous les jours, on était ensemble tous les jours. On a joué ensemble, ça a été mon président, ça a été mon entraîneur. C'est terrible. Après, on s'est éloigné par rapport à notre métier, qui est un peu fantasque, mais une pensée par jour, tous les jours. Depuis l'âge de 14 ans, j'ai toujours une pensée pour lui. Voilà.
On sent votre émotion, on l'a ressenti d'ailleurs de tout le monde du foot aujourd'hui dans cet hommage qui a été rendu. Il y aura un second hommage d'ailleurs à Marseille ce week-end. Albert, c'est quoi le meilleur souvenir avec Roland? Parce que vous l'avez dit, vous l'avez connu joueur, il a été votre coéquipier, aussi un bout d'entraîneur, je crois, à Toulon. Cette relation particulière, le meilleur souvenir avec Roland, c'est lequel alors?
Mais vous savez, j'en ai des millions et des millions et des millions.
Ah oui,
et
je
des
me doute.
ça serait trop compliqué, Pascal le sait aussi bien que moi. On peut pas rester une année de football avec lui sans avoir des milliers d'anecdotes. C'était comme ça toutes les journées, tous les entraînements. Je ne peux pas vous raconter ça. Moi, ce que je peux vous raconter, c'est qu'on s'est connus très jeunes, très très jeunes.
J'ai une question difficile, Albert, tout de même. Quel est votre Roland Courbis préféré alors? C'est le Roland joueur, c'est le Roland entraîneur ou c'est le Roland consultant sur RMC pendant 20 ans avec des expressions inimitables?
Moi, personnellement, c'est le Roland que j'ai connu quand j'étais jeune.
Voilà. Ah, le jeune, le joueur.
On était toujours tous les deux et surtout on était à Marseille, quoi. Et après, bon, c'est vrai que malheureusement, il est parti un petit peu trop tôt de Marseille parce qu'il aurait fait une grande carrière au Olympique de Marseille. Mais voilà, c'est dommage que la vie le sépare un peu des amis comme ça d'enfance. Mais malheureusement, c'est comme ça. C'est, voilà.
Il avait un respect immense pour vous, moi je peux vous le dire, parce qu'on a passé de nombreuses années avec avec coach Courbis.
Oui, c'est vrai.
Et quand il citait des joueurs, les deux joueurs qu'il citait le plus souvent, c'était Delio Onis, avec qui il a joué longtemps à Monaco, et Albert Raymond. Quand on parlait de vous, c'était...
Ah, il disait le pied gauche.
Ah, Albert, quel joueur. Un ailier incroyable, un joueur capable de tout. Enfin, c'était... Il avait un ouais. immense respect pour vous, en tant que joueur aussi d'ailleurs, souvent.
Non, mais moi aussi... Après, on s'est rencontrés un contre l'autre. C'est vrai que Scoblar, il me disait toujours fais attention, il peut te blesser.
Ouais.
Et alors, un jour, Josip, il m'a dit écoute, on va essayer de le blesser avant, hein, comme ça, on va être pour le match. Hein. Parce qu'à l'époque, il jouait à Sochaux, avec un défenseur central, il y avait Posca à côté gauche. Je veux dire, ça coupait court.
Hein. Ouais, ça y allait, ouais.
Voilà.
Des belles histoires hein, forcément Jérôme Albert bah, Raymond, ça, très touché.
Là ça ouais. dépasse ça dépasse le cadre consultant entraîneur joueur quand tu es avec entre Albert et Roland et Albert le dit et c'est pour ça que il est d'autant plus touché c'est que quand t'as grandi avec un pote comme ça que t'as tout partagé
Moi, j'ai connu sa famille j'ai connu son le grand-père, tout ça.
Eh oui, c'est pour ça. J'ai...
Toute l'histoire familiale.
Et d'autant plus ça, déjà, il doit être fier de ça, là où il est. On a une grande pensée. Et surtout, ouais. Je te remercie vraiment de participer à l'émission. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. C'est vraiment un grand merci, Albert, vraiment.
Merci à vous. Merci. Bon.
Merci Albert. Albert Raymond d'être venu avec la grande émotion, forcément. Et on espère que tout va bien pour vous, Albert, en tout cas. Merci d'être venu dans Rotten sans flamme pour témoigner.
Ouais, Pascal.
Pascal, tu veux rajouter un mot pour Albert ?
Non, oulala, ça fait mal d'entendre mon ami Bébert. Oh, ça fait très mal. C'est, vous pouvez le sentir, j'ai pas trop envie de rigoler.
Oui.
Ouais, c'est, et puis là vous regardez le téléphone et ça parle que de Roland. C'est impressionnant, mais impressionnant. Je pensais pas qu'il était autant, mais alors autant aimé. Nous, on l'aime. On l'aimera tout le temps. C'est vrai qu'on n'est que de passage. On ne sait pas quand est-ce qu'on va dégager. Mais là, entendre Bert, parce que j'étais gamin, minot, quand ils m'ont fait venir, j'ai appris à côté d'eux, des gens simples, mais alors très simples. Et le football, qu'il était beau. Voilà. C'est, et puis, j'ai connu la maman de Roland. Oh là 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 là. Oh là là, c'est Bert, la maman de Roland.
C'était un phénomène comme Roland ou...
Ah mais c'était pire. C'était pire. Et la baguette, c'était... Mais quelle femme est Roland, voilà. Ouais.
Ah, écoute.
Bel hommage. Il y aura une cérémonie, je le précise, donc samedi après-midi à Marseille, à l'église des Réformés.
Oui,
donc,
ouais. À Marseille. Ouais.
Voilà. Albert, merci beaucoup d'être venu.
Merci Albert, et surtout bon courage pour la suite.
Et à bientôt. Ouais,
samedi, merci.
Merci Albert.
À bientôt.
Bonne soirée à vous. 0-0 à la mi-temps de la première demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, donc entre le Sénégal et l'Égypte. La mauvaise nouvelle côté sénégalais, c'est la sortie sur blessure de Kalidou Koulibaly, le capitaine. La seconde période dans un instant et ce Rotten se chauffe. Le choc du soir entre le Maroc et le Nigeria, qui est favori. On sera en direct de Rabat avec Nicolas Jamin et Aurélien Tiersin. À tout de suite sur RMC.
18h-20h, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h01 sur RMC, la deuxième heure de Rotten sans flamme, avec encore des bons débats et beaucoup d'actu. Aujourd'hui, on va parler de la CAN. Et oui, demi-finale, la première demi-finale 0-0 pour l'instant entre le Sénégal
et l'Égypte.
Et ce soir, le choc Maroc-Nigeria. Oh là là. Chez les Dugarry, ça va être chaud. Chez les Boutron, c'est la même chose. On est aussi avec Pascal Olmeta, mais nous, on est un peu plus détaché. Mais on va suivre ça parce que c'est intéressant. On est là pendant une heure encore. La première heure, elle était magnifique.
Ouais.
On remercie encore énormément Albert Raymond d'être venu, d'avoir fait l'effort.
Très émouvant, ouais.
Bien sûr. Donc,
il a fait l'effort vraiment parce qu'il ne se sentait pas capable lundi. Il est venu aujourd'hui pour son ami Coach Courbis, mais 60 ans d'amitié. Il y a 60 ans, il était en formation à l'OM.
C'est
tous
fou,
les deux.
66,
en 1966, avec Gérard Gilly, et il a eu le courage de venir. Donc c'était un grand moment à réécouter en podcast si vous l'avez raté. À 19h45, tous contre Roten, le quiz de Roten sans flamme a gagné une carte cadeau de 100€ chez Maison Scarlett, marque française de fabrication de boîtes à montres et de boîtes à bijoux. Si vous voulez vous inscrire, 32-16, touche 4 ou envoyez quiz au 7-32-16. J'ai deux actus à 19h30 et je vous attends au tournant, vous autour de la table là. Toi Jérôme, sur le cas Paul Pogba, parce que Thiago Scuro en a parlé, et on commence à sentir du pessimisme autour du cas Paul Pogba en disant que si ça ne s'arrangeait pas, il faudra discuter cet été, parce que Pogba est en contrat jusqu'en 2027, mais il n'a fait que 3 matchs pour l'instant de 2 Ligue 1. Et Christophe Dugarry, on veut la réaction de Duga sur l'interview accordée ce matin par Gérard Lopez à nos confrères de l'équipe. On veut entendre Duga sur Gérard Lopez.
C'est donné beaucoup d'importance à Gérard Lopez de notre part et de la part de l'équipe.
Alors,
je
ne
sais pas, quand j'ai vu ça dans l'équipe, je me dis mais
qu'est-ce qu'il fout là ?
On donne encore la parole à ce monsieur, mais c'est fou.
Alors c'est vrai, mais je t'avoue que c'est une sorte de plaisir coupable de t'entendre parler de Gérard Lopez. Donc on aura ça
avec plaisir.
À 19h30. Mais tout de suite, messieurs, Nigérians et Marocains ont rendez-vous avec leur destin.
Je pense qu'on est en mission pour gagner la CAN. Pas trop d'inquiétude pour la suite, parce que je pense qu'on est largement dessus pour pouvoir faire jeu égal.
J'ai très très peur face au Nigeria, parce qu'ils sont vachement forts. Un peu compliqué, mais on va le faire.
Dragui, tout le monde est critique. Moi, je trouve que c'est un coach excellent.
Dernier carré, on doit avoir Salah Ballon d'Or, Hakimi Ballon d'Or, Lookman Ballon d'Or, Osimhen Ballon d'Or, Mané Ballon d'Or. Donc ça veut dire qu'on a pratiquement les meilleurs joueurs des dernières années africains.
Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui avant tout, c'est mon équipe. Savoir si on a bien récupéré de ce match contre l'Algérie.
Franchement, on est assez revanchard. On sait que Lookman et Osimhen, ça combine bien et franchement... J'ai hâte de voir ça contre le Maroc.
On va mettre un plan anti-Maroc.
L'objectif, nous, c'est de rentrer dans l'histoire. Pour marquer l'histoire, c'est les titres.
Cette magnifique demi-finale de la CAN, ce soir, 21h sur RMC, le Maroc, pays organisateur, affronte le Nigeria. Impressionnant depuis le début de la compétition. Le match le plus important de l'histoire du Maroc. C'est Walid Regragui qui l'a dit en conférence de presse hier. On attend un titre depuis 50 ans. En face, on a le finaliste de la dernière édition, le Nigeria, meilleure attaque du tournoi. Parlons-en avec Aurélien Tiersin et Nico Jamin qui sont en direct du stade à Rabat. Salut à vous deux.
Salut les gars.
Salut les amis.
Salut Benoît, Jérôme. Salut à tous.
RMC, la radio officielle de la Coupe d'Afrique des Nations, l'After Live en direct de Rabat à partir de 20h. Nico, un mot sur l'ambiance qui règne au Maroc. Est-ce que tout le monde est tendu et attend cette demi-finale avec impatience alors ?
Écoute, tendu, c'est exactement le mot, je pense, Benoît. Tout le monde retient tellement son souffle que pour l'instant, l'ambiance, on a du mal à la voir. On voit quelques grappes de supporters autour du stade dans la médina de Rabat se réunir, chanter et avancer en cortège vers le stade Moulay Abdellah ici à Rabat. Mais pour l'instant, bon, le stade, évidemment, on est à 2h du match, ce n'est pas plein, loin de là. Les joueurs sont venus sur la pelouse, ils ont été applaudis. Mais on a vu le car aussi marocain arriver avec une vue aérienne sur nos écrans ici. Il n'y a pas eu de cortège autour, il n'y a pas eu d'effervescence non plus autour, peut-être à cause du dispositif de sécurité très important ici à Rabat. Mais c'est vrai qu'on s'attendait à plus d'ambiance. Il faut dire également que c'est un jour férié au Maroc. C'est le nouvel an berbère, le nouvel an amazigh. On dit que Rabat ici c'est la belle endormie. C'est vrai que c'est une très belle ville, que l'ambiance on nous dit qu'elle est plus forte également à Casablanca ou à Marrakech. En revanche, ce qu'on sait quand on a vécu là, le quart de finale ici, c'est que ça va monter d'un cran une demi-heure avant le match. Et pendant le match, on demande à ce que tout le monde soit debout tout au long de la rencontre. C'est le défi qu'on lance aux 70 000 supporters marocains dans ce stade Moulay Abdellah. On va attendre tranquillement pour vous raconter à quel point l'ambiance est chaude ici.
Bon, magnifique. On rappelle que dans l'autre demi-finale qui est en cours, il y a 0-0 à la mi-temps entre le Sénégal et l'Égypte. Parlons du sportif Aurélien, parce qu'hier, il y a eu une belle guerre de communication entre Eric Schell et Walid Regragui en conférence de presse. Hein.
Ouais, exactement. Alors très très attendu, il y avait plus de 200 journalistes, plus de 20 caméras, donc c'était assez exceptionnel. Il fallait venir 2 heures avant pour avoir une place assise tout simplement. Et tout le monde a sorti le parapluie. Walid Regragui d'abord, alors offensivement, puisqu'il a défendu ardemment son bilan à la tête de la sélection marocaine. Faut rappeler qu'il est arrivé en août 2022, il n'a simplement que il compte 4 défaites seulement depuis son arrivée sur le banc du Maroc, une demi-finale de Coupe du Monde. On écoute Walid Regragui qui sait qu'il doit gagner cette CAN pour être validé finalement par le pays.
Et pour marquer l'histoire, heureusement ou malheureusement, c'est les titres. Donc nous, on est dans cette dynamique depuis 2 ans. On a fermé les oreilles. On a parlé sur le terrain avec des chiffres. On a fait une série mondial de 19 victoires. On a été invaincu dans notre qualification de Coupe du Monde, invaincu dans notre qualification de Coupe d'Afrique. On sait que voilà, il nous reste deux marches et le prochain pas, c'est d'aller en finale.
Voilà, défendre son bilan côté Regragui et Eric Schell qui est passé juste avant le Marocain. Là, c'était plus croustillant encore parce qu'il a l'équipe qui a le plus impressionné depuis le début de la compétition. 14 buts marqués, c'est la meilleure attaque de la CAN 2025. Mais Eric Schell, il a joué la carte du petit pousset face au Maroc. Eric Schell, le sélectionneur nigérian.
Pour moi, je trouve que mon groupe est fatigué. Donc, il va peut-être falloir que je change mon fusil d'épaule. Mais aujourd'hui, je suis dans cet état d'esprit. C'est-à-dire, ouais, on va peut-être jouer... On va peut-être essayer de laisser la balle au Maroc.
Voilà, il veut mettre le bus en première période. Il a aussi dit on va mettre le bus en première période et on va essayer de sortir en seconde période. On rappelle qu'il a quand même un des meilleurs buteurs de la compétition, Victor Osimhen, ballon d'or africain, Ademola Lookman, ballon d'or africain, et Akor Adams, l'ancien Montpellierin qui a réglé la mire, qui arrive à marquer pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc on peut penser quand même, parce qu'à côté il y avait Alex Iwobi, un des tauliers du Nigeria, qui avait le sourire. Donc je pense qu'ils sont pas si cramés que ça, les Nigérians. Ils ont envie de mettre la pression sur le Maroc.
Rotten se chauffe. Maroc-Nigeria, qui est favori 32-16 pour participer avec nous, Jérôme? Alors, est-ce que tu as hâte déjà de voir cette demi-finale?
Ah oui, c'est pas sympa pour les Algériens quand même.
Pourquoi?
Les Nigériens, ils disent, c'est une équipe cramée qui a battu les Algériens. Bah,
c'est pas sympa.
Ça fait mal, ça, Jérôme?
Ça me fait mal, ouais. Ouais, ça me fait mal, mais je retiens cette phrase. Rendez-vous à la Coupe du Monde, vous verrez l'Algérie où elle terminera.
Bon, en tout cas,
déjà, plus globalement, et on en a parlé tout à l'heure. Ce matin, là, quand on a fait le sommaire de l'émission, j'avais envie de parler de la CAN là, sur mon retour. La première semaine, j'étais pas là, donc je sais que vous en avez parlé un peu aussi, mais j'avais envie de parler de la CAN parce que je me suis régalé à regarder ces matchs.
Enfin !
Non, mais c'est vrai.
Pourquoi enfin ?
Mais Nico, tu as raison. Et pourquoi? Je vais t'expliquer. Je pense que en effet, aujourd'hui, le Maroc, la demi-finale du Maroc à la Coupe du Monde a fait du bien au football africain. Je pense que d'autant plus les passionnés de foot respectent d'autant plus aujourd'hui le football africain, parce qu'on se rend compte que il y a des équipes qui ont vraiment bien progressé quand même. Alors pas que depuis cette CAN. Hein, je vais pas te dire là, ça y est, on est à haut niveau. Les autres CAN étaient peut-être bien, mais je les suivais pas de la même façon. Là, j'ai regardé les matchs, je m'éclate à les voir jouer. Alors certains, même africains, regrettent qu'il y a beaucoup d'équipes qui se sont un peu européanisées, tu vois. Donc mais malgré tout, je trouve que il y a tout ce qu'on peut se régaler sur le football. Des fois c'est des plans tactiques à l'image du Maroc qui prend pas de but, et un peu la folie nigériane. C'est pour ça que j'ai envie de voir ce match ce soir.
Qui est favori?
Parce que c'est compliqué, parce que le Nigeria, en effet, je trouve que dans offensivement, c'est la meilleure équipe depuis le début de la CAN. Elle fait forte impression, elle marque beaucoup de buts. Mais dans la structure, le Maroc, c'est quand même solide. Ils ont pris qu'un pénalty sur la compète.
Ils ont le meilleur joueur de la compète pour l'instant.
Ils ont le meilleur joueur de la compète. Ouais, ils ont un grand gardien aussi. Et ça, c'est important pour gagner les compètes. Donc, j'ai envie de te dire, à domicile devant 70 000 personnes, ça doit aider le Maroc en effet, mais il va falloir faire un gros match. Et puis j'ai un petit faible aussi, parce que vous connaissez l'attachement que je peux avoir avec Walid, et j'ai envie vraiment qu'il réussisse cette CAN et qu'il aille au bout, parce que c'est son objectif, c'est l'objectif de tous les Marocains, et c'est bien de faire tourner le compteur 50 ans après, ça serait magnifique.
Duga, qui est favori de ce Maroc-Nigeria alors?
Écoute, je pense que le Nigeria est meilleur que le Maroc. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, ils ont montré beaucoup plus de choses que le Maroc. Je pense que le Maroc a encore le pied sur le frein. Je pense qu'il faut qu'ils arrivent à se lâcher. C'est pas encore totalement le cas. Je pense qu'ils ont une marge encore. Les Marocains, pour être bien meilleurs, ils l'ont été bien meilleurs. Alors ils ont réussi à assurer l'essentiel, c'est-à-dire de gagner les matchs et d'arriver dans cette demi-finale. Mais je pense que pour battre cette équipe nigériane, il va falloir se lâcher. Être meilleur que ce qu'ils ont été jusqu'à présent. Voilà.
Ça, il y avait du mieux contre le Cameroun quand même.
Il y avait du mieux. Il y avait,
il y avait une bonne première mi-temps, ça s'est équilibré en deuxième mi-temps, beaucoup plus de maîtrise, c'était beaucoup mieux, mais je pense qu'ils en ont encore sous le pied, je pense qu'ils ont encore une marge. Cette équipe nigériane est physiquement très impressionnante, alors je parle dans la puissance athlétique, très impressionnante, d'ailleurs c'est là qu'ils ont surnagé, survolé les Algériens, techniquement très très bonne équipe aussi, ils ont l'efficacité, ils savent faire beaucoup de choses ces Nigérians, donc voilà, on peut, moi j'espère bien évidemment du fond du cœur que les Marocains vont gagner,
y arriver, ouais.
Vont gagner ce match, je ne m'en cache absolument pas, je suis à fond derrière le Maroc, mais je pense que ça va être le match le plus difficile, je suis en train en même temps que je vous parle de regarder l'autre demi-finale,
0-0,
je pense que ouais. Voilà, je pense que le Nigeria est la meilleure équipe de ces quatre équipes. Donc, si tu bats le Nigeria, je dis pas que ce sera facile après en finale, mais le plus difficile sera peut-être fait. Donc, gros match à venir pour les Marocains.
Juste du gars. Si on fait une analogie par rapport à vous en 98, qui avez disputé une grande compète à domicile, plus les tours passent, plus on commence à y croire à ce titre à la fin. Quel souvenir tu gardes de la demi-finale ? Est-ce que la demi-finale, c'est un match piège parce que t'es plus qu'à une marge de la finale, mais en même temps, t'as un gros adversaire ? Est-ce que c'est dur à gérer une demi-finale de grande compète quand t'es devant ton public ?
T'es attendu, les Marocains, on n'imagine pas une seule seconde la pression qu'ont les Marocains, qu'a l'entraîneur.
Ah bah oui.
Nous, en 98, on n'avait pas autant. Les gens rêvaient qu'on puisse la gagner, rêvaient de vivre cette Coupe du Monde, mais on faisait pas partie des favoris. Peut-être on était outsider parce que c'était à domicile, mais on n'était pas favoris. Là, le Maroc est favori. Le Maroc doit répondre à toutes les attentes. Donc la pression est décuplée par rapport à ce que nous on a vécu. Après, comme je l'ai dit la dernière fois, il va falloir que le Maroc ait de la réussite et de la chance. On gagne pas une compétition sans réussite, sans chance, sans coup du sort. Donc peut-être que ce sera ce soir. Je pense qu'ils sont moins forts que les Nigérians, comme je l'ai dit. Mais c'est pas toujours les plus forts qui gagnent. Donc je sais que les Marocains vont faire preuve de beaucoup de cœur, beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie. Et c'est ce qui m'a frappé dans cette Coupe d'Afrique, c'est que il y a beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité. Mais les joueurs se donnent à fond, à l'image des Marocains. Et ça fait plaisir. Ça donne une forme d'intensité au match. Alors parfois il y a du déchet, mais comme il y a tellement d'intensité, c'est pas grave. Ça rend les matchs très, très agréables à suivre. Et je pense que le Maroc est capable techniquement d'être encore plus juste, et il va falloir qu'il le soit, parce que sincèrement les Nigériens ils sont chirurgicaux.
Pascal, est-ce que ça te passionne cette CAN? Est-ce que tu vas regarder cette demi-finale?
Benoît, écoute-moi, la prochaine fois fais-moi passer avant Dug et Jérôme, parce qu'est-ce que tu veux que je rajoute?
Tu bois nos paroles.
Une analyse pertinente.
Tu bois nos paroles. Non, mais c'est vrai.
Plus il parlait, je me disais qu'est-ce que je vais rajouter, parce qu'ils ont tout dit. Mais qu'est-ce que je
applaudis, c'est tout.
Non, mais
c'est qui le favori alors? C'est le Nigeria ou le Maroc?
Dis que t'as beaucoup appris à nous écouter. Voilà.
Oui, va cagar la mine. Oh, non, tout simplement, le Maroc, je les vois plus. Pas favori. Parce que le Nigeria, c'est très, très physique. Ils sont bien en place, ça va être dur. Mais avec tout ce qui va se passer autour, et les Marocains sont peut-être plus techniques, ben je vois, avec l'ambiance qu'il va y avoir, je vois les Marocains passer.
Tu jouerais le Maroc. Accueillons Riyad, qui est supporter marocain et qui va au match. Il est devant le stade.
Ah, Riyad. Ah, il y a un chanceux. Salut Riyad.
Salut.
Bon alors,
salut.
Excité j'imagine avant cette demi-finale. Comment tu vois le match toi ce soir?
Ouais, tout le monde est prêt. Je pense que là il y a déjà une belle ambiance dans les rues de Rabat. On est prêt à rentrer dans le stade. Je rebondis un peu sur ce que vous avez dit par rapport au côté athlétique des Nigérians. C'est vrai qu'ils sont costauds, mais l'avantage et la chance qu'on a, c'est que le football, ça se joue avec le ballon et avec la technique. Donc je pense que sur ça, on est pas maladroit.
C'est vrai.
Et l'équipe du Maroc, elle est très athlétique aussi. On le dit pas assez, je trouve. Mais dans tous les matchs que j'ai regardés, j'ai toujours vu des joueurs en fin de match avec des crampes. Au Maroc, je n'ai pas vu un seul. Donc le côté athlétique, ça me fait pas trop peur. Je pense qu'au niveau psychologique, le plafond de verre, il a été brisé avec le quart de finale. Là, ça aurait été vraiment une catastrophe industrielle de se couper en quart de finale. Autre paramètre qui n'a pas été cité, je crois, et qui est très important, le Nigeria a tout joué à Fès, donc dans un stade avec une piste d'athlétisme, donc peut-être pour Duga et Pascal, il y a une piste d'athlétisme autour, ensuite à Marrakech, piste d'athlétisme encore. L'équipe du Maroc a tout joué à Rabat dans son stade, Ça va jouer, je pense, quand même, avec une acoustique qui est assez impressionnante.
Sur la piste d'athlétisme.
Et voilà, ça se trouve, ils sont nuls dans les stades où il n'y a pas de piste d'athlétisme. T'as raison, Riyad. C'est ça le secret,
ça,
en
c'est
fait.
C'est très bon, Riyad. Bravo, Riyad.
Bravo. Tiens, Riyad, en tout cas, on te souhaite un bon match et une bonne demi-finale pour ceux.
Ça marche, les gars. Qui les Dugas, n'aie pas peur, hein. Fais confiance en ton deuxième pays.
Ah bah voilà.
N'aie pas peur.
J'espère.
Ça va passer.
J'espère. Allez, Slama Sidi.
Voilà. Une info qui vient.
Mais en plus, ils vont profiter de ça, le Maroc, parce que vu que l'Algérie, si ça avait été l'Algérie, ça aurait été terrible pour le Maroc, parce que l'Algérie. Ah bah c'est le vrai pays du football. Mais
vu le niveau de l'Algérie en quart de finale, ils auraient
pas le niveau de l'Algérie, je préférais attraper l'Algérie.
Vous arrêtez, vous les Marocains. Là. Non, mais arrêtez.
Tiens, une info qui vient de tomber. Sachez que Sabri Lamouchi est le nouveau sélectionneur de la Tunisie. Ça vient d'être officialisé. Voilà, donc.
Jusqu'en 2028.
À Sabri Lamouchi.
Bon, 2028, ça veut rien dire, hein, parce que il y a la Coupe du Monde qui arrive. S'il passe pas, les tours,
on verra.
Je pense que.
Nico Jamin et Aurélien Tiercin qui sont sur place au Maroc. Depuis le milieu de cette Coupe d'Afrique, le match dans le match, c'est Brahim Diaz, Victor Osimhen, deux joueurs qui ont illuminé les matchs auxquels ils ont participé. Est-ce que c'est la clé pour toi, Nico, de cette rencontre, le niveau de performance des deux joueurs?
Ouais, évidemment. Alors, Brahim Diaz, on l'a dit, répété, c'est le premier joueur de l'histoire d'une CAN qui marque à chaque match. Il a 5 buts, c'est le meilleur buteur de la compétition. C'est pas un 10, hein, comme le nom numéro qu'il arbore dans son dos. C'est un joueur de côté qui pique dans l'axe, qui a permis notamment contre la Tanzanie de débloquer la situation quand le Maroc coinçait un petit peu. Mais moi, tout à l'heure vous avez dit c'est Brahim Diaz le meilleur joueur de la CAN. Pour l'instant, je pense que sur un match de la première à la dernière, c'est Victor Osimhen, les gars. Il fait un boulot monstrueux.
Enfin, Brahim Diaz, sans Brahim Diaz, le Maroc, où il serait.
C'est un gars qui est capable de presser deux ou trois joueurs tout seul. Et oui, il est plus important, il y a plus de volume encore, Victor Osimhen. On va voir, bien sûr. Brahim Diaz, il peut être instant sur une fulgurance, une action. Mais l'homme qui va sûrement marquer son empreinte cette demi-finale.
Pour une fois qu'il y a un Diaz qui joue au niveau, on en profite.
Petit message avec Kevin Diaz qu'on embrasse, évidemment.
Ah oui, ben, c'est vrai. Kevin Diaz.
Il sera avec nous d'ailleurs, hein, pendant le match.
Ah ben oui, il sera là, évidemment.
Ah, ils font un spécialiste.
Ouais.
Ah bah oui, ouais. Bah, ça doit les faire bizarre de voir un match professionnel quand même, non?
Non, mais ça va pas, non.
Non, je plaisante, mais bien sûr.
Ouais, Dugas, vas-y.
Non, je disais, il y a des joueurs qui doivent faire mieux que ce qu'ils font au Maroc. Je pense notamment à Saïbari. Saïbari, on attend beaucoup de lui. Pour l'instant, on reste un peu sur notre fin. C'est un joueur qui est censé
être mieux en quart de finale.
Oui, beaucoup plus décisif qu'il ne l'est. Moi, ça va se jouer au milieu de terrain. Voilà, avec un milieu de terrain très technique du côté marocain, plus physique.
Le capitaine nigérien n'est pas là, hein. Ndidi d'ailleurs.
Non, Ndidi, oui, exactement. Et d'ailleurs, Saïbari, bon. Qui, s'il prend un jaune, sera suspendu pour la finale, ce qui est une particularité de la CAN. Il y a pas mal de joueurs qui sont sous le coup d'un jaune, et ça peut aussi, tu peux aussi retenir le pied quand tu es au milieu de terrain et qu'il faut jouer physique.
Et Osimhen, là, il y aura un gardien face à lui. Donc pour marquer un but, c'est pas facile.
Ah, du gars, on l'entend plus là.
Non, j'écoute des analyses très, très, très bizarres de Jérôme, mais j'ai l'habitude, c'est pas grave.
C'est vrai que Dugas, tu nous as pas analysé la sortie du gardien de but algérien sur l'ouverture du score nigériane.
Ouais. Il a sauté, il a fait.
Sur le ballon. Non, mais j'étais en train de me remettre. Sur le ballon second. Oui. Il anticipe. Mais c'est vrai que je pense qu'il peut mieux faire.
Tu sais, un mec qui bosse, fait des spécifiques gardiens ici au Maroc, m'expliquait aujourd'hui, il y a très peu d'attaquants qui piquent leur tête. Voilà.
Ah, c'est pas sa faute, alors, regardez.
En général, il attend à bout portant ses ballons au plus de la tête. Peut-être qu'il a été surpris le fait qu'Osimhen, qui est pourtant un grand spécialiste, est peut-être piqué, le fasse. Hein,
Pascal, la sortie de Lucas Zidane, comment tu l'as jugé, toi?
Mais ce que vient de dire.
Allez, un peu de courage, là, quand même.
Non.
Je pense que Bono fera pas la même.
Non, il n'y a pas d'erreur, parce qu'il est emporté par ce long centre. Non, mais ils viennent de le dire, parce que les attaquants qui piquent.
Ça s'appelle pas Zidane, il y a erreur. Arrêtez.
Courage. C'est fou, il n'y a plus de courage.
Non, mais attendez, j'ai pas fini, les gars. Vas-y, continue. Non,
mais ils te posent la question, ils veulent que tu leur donnes la réponse qu'ils ont envie d'entendre. allez-y, allez-y, dis que Zidane, il est nul et que c'est un gardien de merde. Vas-y, dis-le.
On n'a pas dit qu'il était nul.
Jérôme, dis, mais si, vous êtes là derrière votre barbe. Allez-y, dis-le.
J'ai dit qu'il n'a pas fait le match de sa vie sur le quart de finale, c'est tout.
Attends, Pascal n'a pas fini son raisonnement. Vas-y, Pascal.
Non, mais voilà, tout simplement, les attaquants qui piquaient d'habitude tu frappes directement Et là, une tête piquée comme il a été, ben. Eh ben c'est compliqué. Lucas était parti, et ben il était parti.
Il était parti aux fraises.
Non mais il fait le choix que
normalement
que l'attaquant. Voilà, va jouer à l'opposé, à l'arrivée, il a piqué. Ouais.
Il pensait qu'il allait être lobé, peut-être.
Ouais, ben, il pensait qu'il allait lobé ou pas lobé, mais.
Non, s'il allait frapper direct. Non, mais face à lui, il aurait frappé direct la tête, comme fait tous les attaquants. D'accord. Il aurait été là. Bon. Mais là, comme il pique sa tête, eh ben, t'es mort. T'es mort.
On aurait dû avoir Jean-Louis Tour, il nous aurait expliqué tout ça, ça aurait été plus clair.
Ouais, c'est impossible. Ouais. Mais Jean-Louis, il sautait pas comme ça hein, sur les actions. Au contraire, il regardait les appuis au sol, Jean-Louis.
Il pouvait pas sauter.
Avec le cul qu'il a, qu'est-ce que tu veux qu'il saute.
Un point sur la première demi-finale entre le Sénégal et l'Égypte, Antoine Guillet.
C'est l'heure de jeu entre le Sénégal et l'Égypte, toujours 0-0 pour cette revanche de la finale de la CAN 2021-2022, toujours 0-0, donc ballon dans les pieds sénégalais. Les Égyptiens qui n'ont toujours pas tiré une seule fois au but.
C'est ce que j'allais dire.
Depuis une heure de jeu. Côté sénégalais, bon, ils ont tiré 6 fois, mais aucune occasion franche. Peut-être que ça va venir avec ce coup franc dans l'axe qui sera à 30 mètres en faveur du Sénégal. Allez, attends, toujours 0-0 entre le Sénégal et l'Égypte à l'heure de jeu.
On reste avec toi, on va le suivre ce coup franc à venir pour les Sénégalais sous les yeux d'Akon. Voilà, grand supporter du Sénégal. Ça va être frappé d'ici quelques secondes, Antoine, vas-y.
Ouais, ce sera pour Malik Diouf, a priori pour Crépin Diatta. C'est pour Crépin Diatta. Non, c'est directement dans les gants de El Shewani, le gardien égyptien. Toujours aucune action entre le Sénégal et l'Égypte. Cette action, elle est vraiment symptomatique hein, de ce qu'on voit depuis une heure de jeu. Une équipe du Sénégal qui essaie de se procurer des occasions, mais qui est trop maladroite pour que ça aboutisse sur une vraie action ou du moins qu'on puisse avoir un premier but dans ce match. Toujours 0-0 entre le Sénégal et l'Égypte, 62. Minute de jeu.
La suite de ce match dans un instant. Merci Nicolas Jamin, Aurélien Tiercin. 20h, là,
bon courage.
Nico, reste là parce qu'on va parler de Gérard Lopez dans un instant. Toi, le grand supporter des Girondins de Bordeaux. La réponse de Christophe Dugarry. Et on parlera également du cas.
Il nous a sauvé, GG.
Ah voilà, tu vois, du gars.
Arrête,
il a sauvé les meubles.
Pas du tout.
Allez, à tout de suite sur RMC. On parle de Bordeaux et de Paul Pogba. À tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
19h29 sur RMC, la dernière demi-heure de Roten sans flamme, toujours en mode Cannes ce soir, toujours 0-0 entre le Sénégal et l'Égypte. On est avec Christophe Dugarry, avec Pascal Olmeta et avec Benoît Boutron, encore pas mal d'actu avant de vous quitter et de laisser place à l'avant-match et au match Maroc-Nigeria ce soir et à 19h45 pour se détendre et pour gagner un super cadeau. Pour vous faire gagner un super cadeau, on a le quiz de Louis Gerbier.
C'est vraiment une belle semaine pour jouer au quiz parce que le cadeau est magnifique. Carte cadeau de 100€ à valoir chez Maison Scarlett. Fabrication de boîtes à montres et boîtes à bijoux. Il y a des grandes, des petites, en cuir, en velours. C'est vraiment un très beau cadeau. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. 3216, touche 4. Vous envoyez quiz par SMS au 73216. Dans 5 minutes, la réponse, le retour de Christophe Dugarry sur les propos de Gérard Lopez dans l'équipe ce matin. Mais tout de suite, Jérôme, l'arbitre vidéo t'appelle.
La VAR de Roten sans flamme.
Et justement, on va parler de l'AS Monaco, Jérôme, parce que le Paris est en passe d'être perdu pour Paul Pogba à Monaco. Seulement 3 matchs disputés depuis son arrivée l'été dernier. Ça représente une trentaine de minutes de jeu. On l'a plus vu depuis le 5 décembre sur une pelouse de football professionnel. Et il commence à y avoir du pessimisme dans la direction monégasque, à commencer par Thiago Scuro. Écoutez.
Le programme et le plan pour Paul ne fonctionnent pas de la manière prévue au début. Il est très perturbé par le fait qu'il a du mal à être plus disponible et augmenter les minutes sur le terrain. Il n'y a rien de très grave, quelques petits pépins, mais on continue de se battre pour le revoir au plus vite comme on se l'était dit l'été dernier. La relation est très honnête entre Paul et le club. On doit continuer à le pousser et lui continuer à croire en lui. Il y a deux possibilités. Soit ça marche et il reviendra sur les terrains et il aura un impact sur l'équipe, soit ça ne fonctionne pas et bien sûr, les deux parties pourront se mettre autour de la table l'été prochain pour avoir une nouvelle discussion. Mais ce n'est pas le moment d'en discuter parce qu'on travaille pour trouver la solution.
Est-ce que pour vous, le pari Paul Pogba à Monaco est perdu, Jérôme? Est-ce que tu commences à douter, toi aussi, qui avais fondé beaucoup d'espoir parce que c'est un joueur que tu adores?
Bah, moi, j'avais fondé les espoirs parce que je pensais qu'en rejoignant assez vite, c'est-à-dire mois d'octobre, il allait enchaîner, le début d'année là, continuer. et pourquoi pas retrouver un niveau digne de ce nom et de retrouver l'équipe de France, parce que pour moi j'avais ça dans la tête, la Coupe du Monde là, pour parler comme ça, là c'est perdu, il y aura pas de Coupe du Monde, il y aura pas de ceci cela. Après moi je lui souhaite juste de s'éclater sur le terrain, ce qu'il ne fait pas malheureusement, et ce qu'il ne peut plus. Bah, il y a une possibilité en effet que son corps ne suive pas avec tout ce qui s'est passé avant, et que pour l'instant en effet le pari est perdu. Pour l'instant, il est le pari pour l'AS Monaco est perdu. Mais s'il y avait que ce pari-là qui était perdu de la part de Thiago Scuro, parce que moi je veux bien qu'il me parle de Pogba, mais tu peux parler de Ansu Fati, tu peux parler de d'ailleurs. Tu veux que je t'en cite encore? Là il y a le Belge qui arrive, qui arrive de Championship,
qui était remplaçant à Leicester.
Remplaçant à Leicester en Championship. Leicester c'est pas le numéro 1 en Championship, hein, pour remonter en Première Ligue, mais apparemment c'est un renfort de poids. Tu t'appelles l'AS Monaco, tu joues la Ligue des Champions et que tu dois gommer
après c'est pour combler un secteur qui est décimé.
Franchement Thiago Scuro, moi je l'aime beaucoup, hein, Thiago, il y a pas de problème. Je l'ai vu cet été, on a pas mal parlé, mais c'est pour l'instant c'est échec total de sa part, de la part des gens qui dirigent le sportif. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui ils mettent même l'entraîneur dans la merde, parce qu'avec leur choix bizarre, c'est honteux ce qui se passe à Monaco, honteux pour l'instant.
Est-ce qu'il est perdu ce pari Pogba, Duga?
Oui, il est perdu. Alors après, on en avait tous, on a l'espoir, mais pas grand monde y croyait. Sincèrement, il faut avoir peu de respect pour le football pour imaginer que Pogba pouvait jouer la Coupe du Monde. C'est on espérait qu'il puisse reprendre un peu de plaisir sur le terrain, tout ce qui lui a manqué tout au long de ces années. Mais faut arrêter.
Ouais, il faut pas fantasmer.
Mais le niveau c'est autre chose. Une Coupe du Monde, j'en parle même pas d'une Coupe du Monde. On parle de Monaco. Après, on parle de la Coupe du Monde et aussi on parle de quoi ça avait pas de sens. Voilà, je voulais juste vous préciser que le joueur belge, il s'appelle Faez. C'est un joueur très moyen qu'a recruté à nouveau Monaco. Mais bon, ça a l'air de pas les déranger.
Ça les dérange pas.
Très inspiré, vraiment. Les gars, ils se succèdent les uns après les autres. Mais par contre, ils ont toujours le même protocole. Hein. Vraiment, c'est
non, mais
génial.
Ce qui est problématique du gars à ça, où t'as raison de nous rappeler le nom et l'âge, 27 ans, c'est que tu pars d'un profil. Alors, il voulait des joueurs d'expérience. Comme d'ailleurs. Alors bon, on va pas dire que Faes a beaucoup d'expérience de ce côté-là. Mais 27 ans. Mais bon, vu le CV qu'il a, il a pas joué dans les meilleurs clubs. Autant d'ailleurs, beaucoup de respect. Il était au Bayern Munich.
Très moyen.
En France, on avait des doutes.
Très moyen. Et derrière, donc, quand tu prends pas des joueurs d'expérience, c'est pour faire grandir des jeunes et faire progresser. Donc ça veut dire que ce mec de 27 ans, tu l'as recruté, c'est pour qu'il joue quand même. C'est pas pour qu'il regarde les autres, parce qu'il va pas le rapporter à l'entraînement. Donc il va prendre la place d'un jeune.
Ils ont bien recruté Fatih d'ailleurs, et pour regarder les autres.
Ils ne sont pas sur la liste. Garde du gaz pour réagir aux propos de Gérard Lopez. Pascal, ton avis sur Pogba alors?
Je suis déçu. Je suis déçu parce que j'espérais, et puis il s'est préparé, il s'est entraîné. J'avais de ses nouvelles. Tout le monde me disait qu'il bossait, qu'il amenait cette ambiance et tout. C'est dommage. C'est dommage, mais après, je pense qu'à Monaco, c'est plus un côté. Leur gardien là, de 38 ans s'est blessé. Je ne sais pas s'il va revenir. Ça restera toujours un problème. Ils auraient dû prendre un gardien et c'est tout.
Alors, ça, c'est sûr. Tu as raison, Pascal, là-dessus. Mais il y a tellement eu d'erreurs que tu pourrais.
Là, c'est un mercato.
Franchement.
Plusieurs mercatos successifs.
Sur les gardiens, oui. Oui, depuis des années.
De cette interview de Gérard Lopez ce matin dans l'équipe, président propriétaire des Girondins de Bordeaux depuis 2021. Sa première prise de parole depuis 6 mois. Bordeaux est leader de son groupe de National 2 après 14 journées. Je n'ai rien gagné en restant à Bordeaux. Je ne comprends pas qu'on doute de l'amour que je peux avoir pour ce club. Rappelons que depuis son arrivée, les Girondins de Bordeaux ont creusé leurs dettes. Ils ont perdu le statut professionnel. Ils ont fermé le centre de formation. Ils ont envoyé 90 personnes au chômage. 400 entreprises partenaires pas payées. Et il a répondu notamment aux critiques d'anciens joueurs comme Duga, mais surtout comme Vicente Lizarazu. Je vous lis la déclate de Gérard Lopez. Lizarazu devrait parler de foot plutôt que des choses qu'il ne comprend pas. Quand je suis arrivé au club, la situation était ce qu'elle était. Quand on parle parle de la dette. Une grosse partie de la dette correspond à l'argent que j'ai mis dans le club et que j'ai abandonné, cette somme-là. J'ai mis beaucoup plus que lui ou que d'autres qui n'ont jamais rien mis. J'ai été là quand personne n'a jamais voulu s'occuper du club la première fois. Ce n'est pas parce que vous avez joué dans un club et que vous êtes un grand footballeur que ça vous donne le droit de dire tout ce que vous voulez sans pour autant faire quelque chose ou à minima vous informer. La critique fondée, je veux bien, mais une critique comme ça, sans connaître, sans savoir de quoi on parle, non, ça ne me va pas. Déjà, est-ce que tu te sens visé? C'était plutôt Lisa, mais tu peux être visé aussi du gars. Comment tu réagis?
Ça fait parce que j'ai l'impression que c'est le cousin de Textor. J'ai l'impression que c'est exactement le même discours de Textor. Mais comment ce monsieur peut encore penser que les gens le croient? Mais à un moment ou un autre, comment tu peux dire que tu aimes ce club? Parce que qu'est-ce que c'est un club? Un club, c'est ses supporters, ses anciens joueurs, ses joueurs, ses salariés, tout ce qui les journaux, les bordelais, c'est tout ça. Mais quand t'as licencié 90 personnes, quand t'as 400 fournisseurs qui sont pas payés, quand tu as pris le club en Ligue 1, que le club est en National 2, c'est-à-dire que au moins dans les 4 ans, même si tu dis que tu as amené de l'argent, ce que je veux bien croire, quel argent, j'en sais rien, mais tu dis que t'en as amené, je suis pas au courant de tout, je suis pas sur ton compte en banque, mais mec, tu as au moins brillé par ton incompétence. Quand tu prends un club en Ligue 1 qui se retrouve en National 2, ouais, tu fais preuve d'une incompétence à toute épreuve. Eh ben non. Et le mec, il est responsable de rien. Ouais. C'est-à-dire que Moucron, en Belgique, ils ont coulé. Il est dans les parages. C'est lui le responsable. Ça a été Boavista, le club n'existe plus, 5e division, encore. Le club a disparu. Ouais. Voilà. La Formule 1 Lotus, ils ont disparu. C'est lui aussi. Il y a que des échecs. Il y a que des échecs. Même à Lille, il a réussi à se faire virer par le fonds d'investissement parce qu'il n'arrivait pas à payer les dettes de l'argent qu'il avait emprunté. Donc même là, il s'est fait virer de son siège. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait ou presque, parce qu'il y a quand même ce qui s'est passé la bonne année à Lille, ça s'est mal passé. Comment tu peux penser une seule seconde que les gens te croient encore? Et là, il se fait passer en sauveur du club et il t'explique, non, parce que j'ai failli tomber raide. Sur la situation sportive, il est fier du travail accompli. Mais comment tu peux dire que tu aimes le club et que tu aimes les Bordelais et les Girondins quand tu dis des choses comme ça? Tu aimes qui quand tu... À part toi, à part ton autosatisfaction, à part toi ton ego, à part toi penser que t'es génial. Après tout ce que t'as fait à notre club, à notre ville et aux Bordelais. Parce que t'as mis des sous, mais les sous ça t'a pas donné la compétence. Malheureusement, c'est pas l'argent qui te donne la compétence. Ce qu'on te reproche à toi, c'est ton incompétence. C'est tous tes choix que tu as fait. Et aujourd'hui, il se dit, aujourd'hui, ça travaille bien, on est premier, on a fait du bon travail, je suis fier du travail accompli. Mais heureusement, mec, t'avais 94 millions d'euros de dettes. Aujourd'hui, t'es propriétaire d'un club qui a plus de dettes ou très peu de dettes. On t'a autorisé sur 94 à n'en payer que 15 et encore à les rembourser sur 10 ans. T'as la chance que t'as. Tu m'étonnes que tu gardes le club. T'avais un club qui avait 95 millions de dettes que toi t'as fait. T'as fait les dettes toi, mec, avec tes mauvais choix. Le club était déjà mal en point, mais à l'arrivée, le club est devenu moribond. Il était pas bien, toi, il est devenu moribond. Les 95 millions de dettes, la justice t'a autorisé à n'avoir plus que 15. Tu te rends compte, si on est bien en France, on vit bien en France.
Ouais,
le mec,
c'est
il est
vrai.
Toujours en... c'est mais non, mais c'est magnifique. Ah ouais, c'est toujours en poste, les dettes, il n'y a plus de dettes, les dettes sont épurées ou presque, et puis voilà, le mec il est tranquille, et puis là il te donne des leçons sur le football, et il se permet de dire aux anciens joueurs ou à Lisa, t'y comprends rien, t'y connais rien, t'es ici, t'es là, mais qu'est-ce que t'y connais toi au ballon, mec? Tu nous as pris en Ligue 1, tu nous as mis en National 2. Mais qu'est-ce que tu connais?
Voilà, la c'est réponse fou, de Dugas par rapport à cette interview ce matin, ça vient de bouger à la CAN, l'ouverture du score du Sénégal, Antoine Guillet.
Et ça fait 1-0 pour le Sénégal face à l'Égypte, but de Sadio Mané, la superstar sénégalaise qui débloque la situation. Je vous disais, ça fait 1h10 qu'on n'avait pas d'occasion dans ce match, et bien sur sa première occasion, Sadio Mané qui ouvre le score. C'est tout parti dans l'axe du terrain, on était à 35 mètres des cages, cette frappe de Lamine Camara qui est dévié par la défense égyptienne, qui revient dans les pieds de Sadio Mané. Sadio Mané dans l'axe à 20 mètres du but, qui frappe dans le petit filet sur la droite du gardien égyptien Mohamed El Chenaoui. Ça fait donc 1-0 pour le Sénégal face à l'Égypte. Le Sénégal qui tient sa place pour le moment en finale de la CAN.
Il a mis un sacré but hein, quand même. La frappe est partie très vite.
Confirmé. Il y a eu un doute, mais il est bien confirmé ce but. Donc 1-0 pour le Sénégal face à l'Égypte.
Il fallait un éclair de génie.
L'équipe égyptienne décevante hein, sur cette demi pour l'instant.
décevant. Ah, ultra décevant. Ah ouais, ouais. On pourtant, ils ont des joueurs hein, offensivement. T'as Salah, t'as Marmouche. Non, là, c'est bon. Pas la même équipe. Non, c'est logique que le Sénégal, pour l'instant, s'impose.
Et le Sénégal vient de faire un pas vers la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la deuxième demi-finale Maroc-Nigeria à suivre dès 21h sur RMC en direct de Rabat, After Live dès 20h. Dans un instant, la suite et la fin de Roten s'enflamme avec le quiz. Tous contre Roten, le quiz de Louis Gerbier. Restez avec nous, on est là jusqu'à 20h, donc à tout de suite.
19h47 sur RMC, on est là, on est bien dans Roten sans flamme. On finit l'émission les 10 dernières minutes avec le quiz de Louis Gerbier. Toujours 1-0 pour le Sénégal contre l'Égypte. On est avec Christophe Dugarry et Pascal Olmeta qui vont former une belle équipe. Benoît Boutron sera là pour arbitrer tout ça et peut-être participer aussi sur la question décisive. Deux auditeurs, un super cadeau à faire gagner. On y va.
RMC. Tous contre Roten.
Avec un Louis Gerbier en train
en
de
grande forme. Ouais.
Salut l'équipe.
Eh, viens pas mettre tes microbes ici là.
Non, mais on va plus solide que ça.
Mais un masque. Mais un masque. Je sais pas.
Il est
malade toutes les trois semaines.
D'accord. Non, pas depuis fin septembre. Septembre, c'est un.
Dans les GG, c'est pas la grande forme.
Mais c'est parce qu'en fait, c'est un rythme.
On a une pensée pour Anaïs aussi, qui est au fond du lit.
Anaïs, qui est un peu la patronne de Louis Gerbier.
Elle lui mange dessus. Voilà.
Le cadeau est magnifique. Une carte cadeau de 100 euros chez Maison Scarlett. Vont s'affronter ce soir Raphaël et Victor. Salut à vous deux.
Bonjour.
Salut Raphaël, salut Victor.
On a un supporter parisien, Victor. On a Raphaël qui vit en Guyane et qui nous appelle, qui est supporter de l'Olympique Lyonnais. Raphaël.
Oui, c'est ça.
Tu veux jouer avec la légende de l'OL, Pascal Olmeta, ou avec Jérôme?
Ah oui, avec Pascal, ouais.
Ah, Raphaël, avec le reste du monde. Et donc, Victor, avec un joueur qu'il adorait, Jérôme Breton.
Allez, on va y aller.
C'est parti.
Merci du gars. J'attendais que tu nous lances. On va faire un thème sur les demi-finales de la CAN.
Excellent.
Sénégal, Égypte, Maroc, Nigeria.
Pascal, il est mal.
Ouais, Pascal, il va souffrir.
Surtout si vous répondez avant lui, il aura plus rien à dire. Quel joueur?
Gerbe. Oui. Gerbe. Tu vas la faire longtemps. Tu pars en couille comme ça.
Tu sais qu'il a pas un scooter, il a une moto, mais je pourrais te donner la plaque d'immatriculation.
Ouais. Ça va, Gerbe.
Gerbe. Quel joueur nigérian a porté le numéro 12 de Chelsea pendant une décennie?
De Chelsea?
Nigérian Chelsea, ouais.
Mais il joue encore?
Non, enfin en tout cas plus à Chelsea, mais je crois qu'il joue même plus du tout.
Bah réfléchissez.
Il est parti il y a une petite dizaine d'années de Chelsea.
Il a un frère connu.
Ah oui, c'est. Obi Mikel. Obi Mikel.
Oui, bravo.
Ah oui, Obi Mikel.
Alors, il avait un ancêtre.
Non, il n'avait pas de frère, mais qu'est-ce que tu racontes?
C'est n'importe quoi.
Question auditeur.
Ah, Victor contre Raphaël.
Raphaël Nadal. Alors, parce que hier c'était Yannick Noah, pour les gens qui ne l'ont pas. Quelle nation, chers auditeurs, quelle nation présente en demi-finale a remporté le plus de fois la compétition?
Le Maroc?
Non.
Algérie?
Non, bah, ils sont éliminés.
Nigeria.
Non, bleu, il en reste un.
Sénégal.
Eh ben non.
Il en restait deux, pardon. Il en reste plus qu'un. Ils jouent en ce moment et ils vont perdre.
Sénégal.
Non.
Eh ben non. C'est l'autre.
Ah, Mali alors.
Bah, Mali. Non.
Oh là, et non, c'était la Tanzanie.
Bon,
le point, c'était l'Égypte avec 7 victoires.
Vous avez cité les 3.
Génial.
Bon, 1-0 toujours pour Jérôme.
Allez. Ah, vous êtes comme Pascal, vous la suivez pas la CAN. Hein.
Question du gars.
Faites comme moi. Soutenez la fédération.
Ce soir, je fais des détours. Ce soir, j'oublie tout.
Ah, c'est autre chose que le single de Pascal Olmeta, ça.
Tape dans un ballon. Tape.
J'en ai vendu des milliards.
Ouais. Des milliards, ouais.
Question du gars.
Deux pochettes avec la photo.
France-Sénégal 2002.
Ouais.
Quel joueur du gars remplace-t-il à la 60e pour faire la différence?
Oh, du gars, c'est pas ça.
Quel joueur?
C'est à qui tu poses la question?
À tout le monde. France-Sénégal 2002. Tu remplaces qui?
je sais pas, Mikou.
Pour permettre de faire la diff, non.
Djorkaeff.
Djorkaeff,
bah non, je rappelle pas.
Donc tu rentres, il y a 1-0 pour le Sénégal et puis du coup tu fais la diff et à la fin 2002, il y a 1-0.
Sénégal, c'est un traumatisme.
Il y a 23 ans, j'en sais rien. Traumatisme, c'est pas ça un traumatisme.
Ah bon?
Mais non, mais.
Ah bon?
Mais non, mais c'est le foot, c'est la vie, oh là là, c'est l'histoire, on s'en fiche.
Ouais, bah on va en gagner d'autres des Coupes du Monde avec des gens pareils. Non, mais d'accord.
Un par pied.
Duga disait, c'était de la.
Ça me traumatise.
Non, mais c'était. Duga de la vie. Duga. Duga, il disait, c'était de la faute de Roger Le
Maire. Ouais. Oui, et vrai, puis bah comment Roger... tu bafoues la présence en Coupe du Monde? Il y a des gens, ils crèveraient pour avoir fait une Coupe du Monde.
Il nous disait même, Roger était complètement cramé.
Ah ouais, non, mais Roger, c'est de sa faute. Ouais. Ouais.
Allez, enchaîne.
Question con, puisqu'on y est là.
Ouais. C'était pas celle-là d'avant.
Quel joueur égyptien est passé à une syllabe de casser des télés sur Instagram en guise de profession?
Ah oui. Ah, vous le connaissez pas, je pense. Il joue là.
Je suis pas sur Instagram.
Rien droit.
Non, mais qui casse des télés en guise de profession?
Mais quel est le guignol qui casse des télés? J'en sais rien, moi. C'est un jeu, ça? C'est l'émission? C'est une passion? C'est quoi?
Qui connaît pas Jérôme?
Qui casse des télés sur les réseaux?
Mais j'en sais rien, moi.
Bah, quand même. À chaque défaite de l'OM.
Ah non, c'est l'autre intelligent, là.
Bah, oui. Ouais,
bah, je sais pas comment il s'appelle.
Bah. Ah bah voilà.
Excuse-moi de pas suivre ce genre d'énergumène, mais c'est.
Ah, c'est fa!
Mohamed Eni.
Eh oui.
Le.
Voilà.
L'influenceur, si on peut dire.
Ah oui,
Mohamed Hani, le joueur latéral.
Exactement.
Moi, je pensais pas que j'étais entouré de ultra boomers.
Mais moi, j'aime le foot. On m'a dit, il y a une émission de foot. Il n'y a pas une émission. Mais non, punaise.
Il nous parle d'un mec qui casse ses télés.
Mohamed Hani.
Un mec qui joue pas au foot et qui casse ses télés. Non, mais sérieux.
C'est pareil. Dès qu'il ne trouve pas, c'est le problème, c'est la question.
C'est un bon quiz. 7 minutes de quiz, un partout entre Jérôme et le reste du monde.
Allez, question, on le met là.
Est-ce que c'est la faute des joueurs ou est-ce que c'est la faute de l'entraîneur?
Qui en met un crochet du droit.
Tac,
les deux touches.
Il commence à m'imaginer dans le jingle.
Question débile, réponse débile.
Allez, question ultra débile pour Duga. Lors de l'embrouille de fin de match après le quart de finale Algérie-Nigeria, quel joueur s'est embrouillé violemment avec Fisayo Dele Bashiru?
Zidane.
Bonne réponse.
Il l'a dit, oui.
Bravo.
C'était très facile cette fois.
Pour le reste du monde.
Ouais.
Attends, il a été réprochable sur le match.
Allez, Duga.
T'es énervé.
Question d'Imeco.
Ouais, au moins, il va
vous êtes des hommes, des grands hommes d'Europe.
Allez, on cherche un grand homme. On cherche un joueur marocain. Alors, Rabat, AM Football, Dijon, Stade Rennais, West Ham, Real Sociedad, Marseille.
Ah oui, je l'ai. Ah oui.
Il va jouer, hein.
Il va jouer.
West Ham.
Oui.
Christophe juste devant.
3-1, Jérôme, mets-toi dans ton quiz. 3-1 pour le reste du monde. Un grand Duga, on sent que c'est le Maroc qui
joue. Attends, mais j'étais sur un ancien joueur, n'importe
la
quoi.
La routine. Souffle.
Le score est remis à zéro.
Oh là 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 là. Voilà. C'est rageant.
Ah, ok.
Ah, c'est rageant.
C'est rageant. C'est vraiment pas drôle.
Ah, c'est rageant.
Ah bah là c'est,
allez, c'est quoi la dernière
allez, Duga, hein.
Question, une petite question flash pour vous départager.
Ah oui, ah, quand même, un peu d'actu.
Allez. Selon Claude Leroy, quel rappeur devrait jouer ce soir?
Non mais.
Ah oui, bien sûr.
Claude Leroy.
Eh oui, il a confondu les noms, comme Moscato ou Denis Charvet. Il voulait dire Osimhen.
Il voulait dire Osimhen. Quel rappeur?
Quel rappeur?
Eminem.
Oui, incroyable.
Ouais.
Dingue.
Oh.
Eminem.
Ah,
Eminem.
Et voilà. Eminem.
Il est en forme, hein, Claude Leroy.
Très en forme, on l'embrasse d'ailleurs. Et bravo à Victor qui remporte ce magnifique cadeau.
Bravo Victor.
Tous contre Roten sur RMC avec Maison Scarlett, la marque française numéro 1 de boîte à bijoux et boîte à montres, jolie, pratique et accessible. Rendez-vous sur maison-scarlett.fr.
Un grand quiz. Bravo Louis Gerbier.
Allez, je
remercie, remets-toi bien.
À demain.
Merci à Pascal Olmeta.
Ouais, et tu relèves pas pour demain.
À Christophe Dugarry. Et dans un instant, direction Rabat, l'After Live, la Coupe d'Afrique des Nations et cette demi-finale entre le Nigeria et le Maroc. C'est très tendu. On est dans le temps additionnel, dans la première demi entre le Sénégal et l'Égypte. Toujours 1-0 pour les Sénégalais, Antoine Guillet. Hein.
Toujours 1-0 et pour les Sénégal, il reste 1 minute 10 ici à Tanger entre le Sénégal et l'Égypte. Le Sénégal qui est en train de tenir sa place en finale pour aller pourquoi pas chercher eh bien une deuxième CAN dans son histoire. Plus qu'une minute entre le Sénégal et l'Égypte. Et là, c'est l'Égypte qui depuis quelques minutes pousse. On disait pendant 1h10, on n'a pas eu d'occasion. Et là, depuis ce but de Sadio Mané à la
67e... Antoine, on va rester avec toi pour la fin de match parce qu'il y a du suspense et l'Égypte pousse pour égaliser. Vas-y.
Exactement, c'est ça, l'Égypte qui est en train de pousser là le ballon aux abords de la surface dans les pieds de Marmouche, la frappe de Marmouche, elle s'est captée par Edouard Mendy. On était sur l'une des dernières actions de ce match, encore 45 secondes à jouer ici à Tanger entre le Sénégal et l'Égypte. Toujours 1-0 pour le Sénégal, on rappelle ce but de Sadio Mané à la 78e minute, et là le ballon dans les pieds égyptiens, on repasse par derrière le côté égyptien. On a la montée du gardien Mohamed El Chenaoui qui envoie ce ballon devant dans les 30 derniers mètres sénégalais. Le ballon qui est dans la surface sénégalaise, on est mal négocié côté égyptien, la surface sénégalaise qui est vraiment prise d'assaut là, hein, mais qui a réussi à se dégager. On était peut-être sur la dernière action,
c'est la dernière,
une dizaine
raison.
De secondes à ouais. jouer ici à Tanger. On envoie un dernier long ballon côté égyptien, c'est repoussé par la défense sénégalaise. Attention à ce deuxième ballon qui est là dans les pieds du numéro 9 égyptien. Est-ce qu'on signe un coup franc? Non, Pierre Acho fait signe de jouer, pas de coup franc accordé à l'Égypte. Il reste quelques secondes à jouer.
Il a joué pour l'instant. Dernière opportunité peut-être pour l'Égypte qui est menée 1-0 par le Sénégal, Antoine.
Il manquerait plus qu'ils égalisent, ils n'ont pas cadré un tir aujourd'hui.
C'est la dernière opportunité sans doute avec cette touche de Yasser dans le camp sénégalais qui est redégagé encore une fois par les Égyptiens. Ça y est, c'est terminé. Le Sénégal tient sa place en finale. Victoire 1-0 face à l'Égypte grâce à un but de Sadio Mané à la 78e minute. Le Sénégal qui ira donc défier le Maroc ou le Nigeria en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera sans Kalidou Koulibaly et sans Habib Diarra, tous les deux suspendus après un carton jaune récolté lors de cette demi-finale.
Merci Antoine Guillet, bonne soirée. Le Sénégal premier qualifié pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, direction Rabat dans un instant pour ce Maroc-Nigeria avec Nico Jamin, avec Aurélien Tiersin, avec vous au 32-16. Et Roten sans flamme revient demain, Jérôme.
Même plus que le Maroc, Benoît. Allez, on est derrière le Maroc pour le match de ce soir, même si on respecte beaucoup le Nigeria, bien sûr. On se retrouve demain pour analyser tout ça. Magnifique émission. Merci Pascal, merci Duga, merci Benoît, merci à tous les invités. Encore une grande pensée à notre ami Roland Courbis. Voilà, c'était pour lui l'émission de ce soir encore une fois, et comme beaucoup d'autres émissions. Je vous embrasse, à demain 18h pour Roten sans flamme.
RMC jusqu'à
20h. Roten sans flamme.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.